There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité. Présenté par LAM UA.
Bonjour à tous et bienvenue au Studio 404. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mois de février pour une émission spéciale. Imaginez qu'on est en 1492 par exemple. Non, je déconne. Par contre, on a invité 73 podcasts influents français qui sont avec nous ici. Et nous allons tous vous les présenter. Mais non, je déconne. Ça va être une émission pur jus, une émission old school, une émission à l'ancienne, réclamée par la frange dure de notre communauté. Donc on va le faire vraiment comme d'habitude, comme en 2012, comme en 2013. Il y aura 4 chroniques, il y aura 4 FAQ, il y aura de la mauvaise foi, il y aura Mélissa.
Du roleplay.
Voilà.
Il y a des chroniques réécrites au dernier moment.
Au dernier moment. Il y a Mélissa qui utilise sa vie actuelle comme un bêta-test de sa vie rêvée. Il y a Daz qui va streamer sa chronique en live, puisqu'il l'écrit en ce moment même, tout en regardant une série Netflix. Sylvain, bien sûr, en écrivant sa chronique, aura trouvé 2 idées de start-up complètement bankable.
Et aussi. Un programme politique.
Bien sûr. Et enfin, Fibre, et bien sûr, a rendu sa chronique avant tout le monde. Et
il l'a réécrit 3 fois.
Il l'aura réécrit 3 fois. Mais il aura eu le temps, en tout cas, de vous vendre ses nombreux projets. Donc vraiment, à l'ancienne, comment allez-vous, cher chroniqueur? Comment ça va, Mélissa?
Moi, je suis prête pour la fête.
On est, moi, je suis prête pour la fête. On dirait presque un truc de R&B.
1997, je suis encore influencée par l'émission du Moderni. Prête pour la fête qui est jeudi, le jeudi 23. Donc si vous nous écoutez le 24, désolé, c'était hier.
Donc jeudi 23 février 2017.
Au Piaule à Belleville à 20h, venez.
Très bien, très bien. Daz, est-ce que tu seras de la fête?
J'en serai, oui, bien. Tout à fait. J'abandonne ma famille pour pouvoir me joindre à vous.
Ouais.
Et faire gagner des trucs. Il y aura une tombola ou pas?
Ouais,
ça dépend si on a encore tombola. Des goodies.
Ouais, on a encore des petites choses à faire gagner aux gens. Tu seras là?
Ouais, je serai là. Bien
genre le mec qui abandonne sa famille que pour faire la fête alors qu'il l'abandonne tous les soirs pour faire ses émissions sur...
chez Webedia.
Chez Webedia.
Ah, et pour jouer à Elite.
Comment ça va, Sylvain?
Ça va bien, j'ai passé un week-end, j'ai fait 2 choses.
Comment, alors, on va le refaire. Comment ça va, Sylvain Freelance?
Ça va très bien, j'ai passé...
Consulting.
J'ai passé un week-end où je n'ai pas vraiment travaillé à part écrire une chronique. Et sinon, j'ai binge-watché des séries sur Netflix.
Ouais.
Je vous conseille de regarder Please Like Me, qui est une série australienne qui date de 2014, mais qui vient d'être dispo sur Netflix et qui reprend en 2017.
D'accord.
Et c'est super bien.
D'accord.
Vraiment accro, très accro.
Please Like Me, très bien. Fibre.
Je suis...
Comment ça va?
Excusez-moi, je suis un élitos.
Ah voilà.
Alors,
il est des nôtres.
Alors sachez que...
Il a pris son vaisseau comme les
voilà. Autres. Voilà. À 404, on va dire, tous les individus de sexe masculin jouent à élite, sauf moi.
Et moi, je joue pas à élite, je vis élite, voilà, parce que élite, c'est la vie.
Et donc, j'ai rejoint votre secte, et c'est pas mal, et je pense qu'on va faire peut-être des 404 dans élite, peut-être un jour.
Ouais,
en tout cas, je vous vois plus souvent dans élite qu'ailleurs.
Et il nous restera, enfin, juste à convaincre Mélissa de se lancer en douceur dans le jeu vidéo en commençant par élite.
Et vous m'avez convaincu en disant qu'il n'y avait pas de meuf sur élite, ce ouais. que je veux encore prouver.
C'est vrai qu'on n'a jamais croisé
jamais.
De femme avec des femmes avec un vaisseau entre les jambes, quoi. Non, ça n'existe pas dans Elite. Il y a que des hommes. En tout cas, tu verras, c'est très simple, Mélissa. Allez, en tout cas, je sens que vous êtes chaud, vous êtes en forme et on va régaler nos auditeurs avec 4 chroniques différentes et très intéressantes. Je l'espère, cher chroniqueur. Et on va en tout cas commencer tout de suite avec celui qui finit ses chroniques en premier, donc qui va pouvoir la démarrer, c'est Fibre Tigre.
Sujet numéro 1.
Comment nous faisons hacker notre attention?
Fibre. Hacking, attention.
Alors moi, quand j'ai commencé Studio 404, j'adorais le projet, mais je me suis dit, ça va être super chouette pour ma marque personnelle, parce qu'on va pouvoir parler de moi. Voilà. J'avais un modèle à l'époque, c'était Zemmour. Alors c'était il y a 5 ans, et il n'y avait pas un jour sans qu'on parle de cet éditorialiste de iTélé, Zemmour. Parce qu'en gros, il y a trois façons de retenir l'attention. On peut être passionnant, on peut être très drôle, ou on peut être très con. C'est quand même un peu ce que faisait à l'époque aussi Michael Vendetta. Alors l'avantage de faire...
Option 3, Michael Vendetta.
Voilà, ouais. L'avantage de faire semblant d'être très con, sur les deux autres méthodes, c'est que ça coûte pas très cher, et c'est à la portée de tout le monde. Alors, pas cher, oui, parce que l'attention est une économie.
Ouais.
C'est le temps de cerveau disponible 2.0, en quelque sorte. C'est l'économie de l'attention. Et dans cette chronique, nous allons parler de cette attaque sur l'économie de l'attention par hacking. Mm-hmm. Le gros hacking, comme dirait Sylvain dans ses PowerPoints. Mais justement, sur cet aspect particulier de l'économie de l'attention. Et vous allez voir, c'est très actuel parce que je vais parler des choses qui se passent aujourd'hui. Alors, la dernière arme de nos trolls qui veulent hacker l'économie de l'attention, vous savez, les trolls qui ont un masque de V pour Vendetta, les Anonymous, mais Vendetta sans Michael cette fois, c'est le gaslighting. Alors, le gaslighting, c'est quoi? Ça vient de Gaslight, c'est un film de 1944, en français, c'est Antise, dans lequel un mari animé de mauvaises intentions manipule sa femme pour lui faire croire qu'elle est folle et qu'elle ne distingue plus le vrai du faux. C'est la démocratisation de la propagande. Donc, j'ai déjà cité dans une émission précédente au Tank...
Ouais.
Un proverbe russe que j'aime beaucoup, qui disait qu'au moins en Russie, la propagande, on sait que c'est de la propagande. Là, non seulement elle est partout, mais en plus elle nous déborde et elle déborde les entités d'information non propagande. Mais regardons un petit peu de quoi ça parle. Imaginez un cocktail composé de autant d'informations fausses que de vraies, d'impossibilité de réfuter une information fausse en temps réel. Si je vous dis que la tour Eiffel vient de s'écrouler, bah,
quoi ?
On l'a pas sous nos yeux et vous pouvez pas.
Ah, voilà. C'est une information fausse.
Moi, je crois.
Et enfin, il y a une hyper-volatilité de la persistance des informations. C'est-à-dire qu'un scoop, ça dure un jour ou une demi-journée.
Ouais, un jour quand il est vraiment gros. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc ça, ce cocktail, c'est un peu le GHB du troll. Vous pouvez être certain qu'après une petite gorgée, plus personne n'y comprend rien. Et que dans certains embrouillamini, ne surnage que le populisme, les idées basiques que l'on confond malheureusement avec le bon sens, et surtout pas ce qu'est la réalité, c'est-à-dire quelque chose qui est en nuance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers trolls, ils cherchaient le LOL, ils appelaient ça le LULZ,
ouais.
Les LULZ secs.
C'était le LOL un petit peu féroce.
Voilà, le LOL féroce, et après c'est devenu carrément une arme un peu de pouvoir, et aujourd'hui on est vraiment dans une quête réelle de pouvoir. Et ils ont fait un peu de démonstration de pouvoir avec Trump, mais on va voir ça un petit peu en détail dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais faire une petite échelle Richter des bulles économiques de l'attention.
Donc les bulles économiques de l'attention.
Voilà, c'est ça. Parce qu'on a parlé d'économie de l'attention. Donc après, ouais. Il y a des crashs, des phénomènes économiques. Donc en force 1, on a Zemmour, qui a disparu. Hein.
Toujours ton modèle ?
Oui, voilà. Alors non, il y en a un autre qui va arriver. Zemmour, c'est une sorte de troll malgré lui à l'ancienne. C'est le mec, ouais, aujourd'hui, qui a une profile pic œuf.
Ouais.
Qui arrive sur Twitter, qui fait une remarque misogyne ou raciste sous un article de Libé, par exemple, et personne ne le remarque.
Donc alors, il hack rien ni personne. Quoi.
Alors, il essaye d'hacker, mais c'est trop à l'ancienne. Voilà. Alors, en force 2, on a ce qui pourrait être un peu mon nouveau modèle, c'est Philippot. Donc, Philippot.
Alors, Florian Philippot, c'est ça?
Florian Philippot. Donc, respect pour Philippot parce qu'il mouille un peu la chemise. Lui, sa technique, elle est super simple. Il est toujours disponible.
On rappelle que Florian Philippot, il travaille pour la campagne de Marine Le Pen.
C'est un élu du Front National.
Voilà. C'est un élu du Front National dont on se moque un peu sur les réseaux sociaux, mm-hmm, parce qu'il est omniprésent.
D'accord.
Et on critique par exemple les médias en disant oui, mais vous invitez toujours Florian Philippot. Or, c'est surtout Florian Philippot qui alimente ce jeu parce qu'il est tout le temps disponible, il y a toujours quelque chose à dire.
D'accord.
Et c'est un peu le bouche-trou universel. Et moi, si je dois le comparer à une entité, Internet, je dirais que c'est un Twitcher de la pensée FN.
D'accord.
C'est, moi, je vous dis, en 2022, il est sur Periscope 24/7 pour parler de lui, en fait.
D'accord. C'est un mec qui peut tenir pendant 4 ans non-stop.
Voilà. C'est l'intello du FN, donc c'est lui qu'ils envoient dans les chaînes télé,
oui,
pour
mais
pas qu'il fasse de débordement.
Par rapport aux attaques trollesques qui créent le gaslighting, il y a un aspect de masse. C'est-à-dire que là où Zemmour arrive et dit un truc misogyne et il crée un peu une sorte de séisme, lui, oui, il est là tout le temps. Donc,
d'accord.
Il a une omniprésence. C'est le deuxième aspect.
Et donc, c'est ton modèle actuel.
Alors, en tout cas, être bouche-trou...
Universel. Bouche-trou universel.
C'est une bonne technique, pas trop chère, en tout cas, pour hacker l'économie de l'attention. Alors, petite remarque sur Florian Philippot, qui vaut son pesant de cacahuètes. Dans deux vidéos qu'il a fait récemment, parce qu'il fait aussi du YouTube, le bougre, il a essayé un petit peu de draguer le forum jeuxvideo.com le 15-18.
Un petit peu beaucoup.
Voilà, en plaçant des mèmes de la communauté. Et il essaye peut-être un petit peu de trumpiser, voire de fortchaniser un petit peu la France. Donc c'est, il y a quand même une
démarche,
une stratégie quand même qui est pas innocente. Donc en Force 3, on a Hanouna. Donc le mec, c'est, il tient l'Access Prime Time par les couilles, il hack les trending topics comme un ado, il joue complètement sur la provoque, il se régale quand les Social Justice Warriors lui tombent dessus, il fait durer la polémique sur du vent, le mec, il rachète Malaise TV comme un cannibale tenté par l'autofellation. En tout cas, parler d'Hanouna, c'est être la victime de son jeu. Et en Force 9000, on a Trump. Alors Trump, c'est la bombe nucléaire des trolls de 4chan et du Gamergate, élu par le gaslighting, on a parlé des fake news, et il alimente les tremblements de terre de puissance maximum. Accro aux réseaux sociaux dont il est une créature, il est plus millénial que les millennials, dans la mesure où il va très vite et que la prochaine catastrophe n'est là que pour faire oublier celle d'aujourd'hui. Il n'a pas de discours argumenté, ça n'a aucun sens, sa confusion est un élément de son identité parce que c'est un mème qui c'est domine vrai. Le monde.
C'est un mème qui domine le monde.
C'est lui son nouveau modèle. Ça ouais. Je l'ai.
Aujourd'hui, Trump, aujourd'hui, fait, fact. Aujourd'hui, Trump, dans un discours, a appuyé sa politique en affirmant de façon mensongère qu'il y a eu un attentat en Suède hier.
Ce qui a fait rigoler toute la Suède, je crois. Hein, mais on s'en fout. Il s'en fout.
PewDiePie, plus gros youtubeur mondial, a fait une vidéo récemment clairement citée antisémite. Un peu plus discrètement, mais qui s'est quand même fait remarquer, Notch, milliardaire créateur de Minecraft, défend PewDiePie en évoquant une cabale des médias. Face aux faits, Fillon les nie et se maintient dans le jeu politique. PewDiePie, Fillon, Trump, ce sont des super pros de la communication. Ils n'ont pas réussi par hasard. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, nous, dans 404, on a souvent parlé de la mise en scène de notre quotidien.
Ouais.
Qui va, alors, exemple mineur, la mise en valeur, le MySpace angle, on se prend sous un angle un petit peu valorisant. Mais c'est un petit peu de la triche. Mais ça peut aller jusqu'à la mythomanie pathologique, on en a parlé dans nos chroniques, de ces faux voyageurs Instagram ou de ces faux malades chroniques sur Facebook qui sont là pour attirer de l'amour. Eh bien, on arrive dans un temps où c'est difficile de jeter la pierre à Trump, à Fillon, à PewDiePie, en tout cas de jeter la pierre sur ces menteurs et manipulateurs médiatiques parce que nous avons tous péché.
Nous sommes tous des hackers de l'attention des autres.
Nous avons tous péché pour la même raison. Nous avons voulu des likes comme ils veulent de l'attention. Et si l'attention est devenue si importante qu'on est prêt à faire n'importe quoi, que pensez-vous de la vérité? Mais est-ce que la vérité, c'est pas overrated? Est-ce que... Moi, je vous dis, la vérité, c'est épuisant. La vérité, il faut la chercher. Il faut la vérifier. Et souvent, la vérité, c'est très chiant. Un attentat en Suède, c'est bien triste, mais ça fait plus d'audience sur BFM qu'un reportage sur les Chris Prolls. Dernier point. Est-ce qu'on fonctionne en personnalité comme on fonctionne en série télé, avec cliffhanger au lieu de polémique et showrunner à la place de responsable com? En tout cas, dans l'affaire Game of Canard enchaîné avec Fillon, moi c'était BFM toute la journée et j'attendais le nouveau twist. Trump aujourd'hui, et là je sollicite votre réflexion, Trump aujourd'hui ne reçoit qu'un mépris général de la communauté, de ceux qui se croient bien instruits, je vous regarde tous. À l'image d'Hanouna que vous méprisez. Mais comme Hanouna, il défonce les scores d'audience. Le mec est devenu président de la première puissance mondiale. Et comme Hanouna, désolé, il sera là pour longtemps. Et personne en face n'arrive à produire une émission pour le contrecarrer. La seule stratégie qui se dégage est d'attendre qu'on se lasse du show ou qu'on s'aperçoive qu'il est mauvais. Moi, je vous donne des spoilers, ça n'arrivera pas.
Ah, donc Fibre, tu crois qu'on vit sous le joug et dans le règne des meilleurs hackers de l'attention. Donc les gens qui arrivent vraiment à prendre nos réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais venir nous l'arracher quasiment. Et à la fin, on ne sait même plus si nous l'ont arraché ou si on a réagi de nous-mêmes. Comme tu dis, c'est un cocktail affreux qui nous rend tous un peu groggy.
Voilà. Et pour reprendre ma conclusion, là où le piège, il est imparable, et je ne vois pas personnellement d'issue, mais je vous invite à en trouver, c'est que le fait même d'en commenter, de le disséquer, d'y réfléchir, eh ben, c'est rentrer dans leur jeu. Et du coup, trouver une solution à défaire le nœud le resserre. Donc, je ne sais pas trop comment faire.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Fibre qui explique donc que cette économie d'attention telle qu'on la connaissait avant, qui était des gens qui ont plus ou moins d'influence ou de voix, ou des médias qui ont plus ou moins d'influence ou de voix, ont été complètement hackés par des gens beaucoup plus efficaces, qui sont passés par d'autres méthodes et qui ont surtout créé quoi, un grand bouillon du propos, des faits et des opinions et des commentaires qui font que tout est chamboulé en fait. Est-ce que vous sentez comme ça?
Selon moi, l'économie de l'attention, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, qui est effectivement l'économie médiatique, et qui a toujours su rester dans une certaine limite de l'éthique et de ok, à un moment donné, il faut qu'on reste dans qu'on joue le jeu de l'économie de l'attention, mais qu'on n'aille pas jusqu'à manipuler la vérité. Quand les premiers médias ont commencé à faire du clickbait,
ouais,
c'est-à-dire les titres un petit peu putaclic,
racoleur, ouais,
c'est jouer le jeu de l'économie de l'attention. Mais ils sont jamais allés jusqu'au fait de se dire, en fait, on va balancer des choses fausses et manipuler la vérité. Mais pourtant, c'est là où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a eu une escalade de ce genre de choses.
Et on rappelle, parce que c'est un des sujets que t'aimes bien, c'est que toutes ces techniques de clickbait et d'économie de l'attention venaient des adolescents et notamment de certains blogs.
Ouais, ouais.
Vous étiez très très forts pour créer de l'attention avec pas grand chose.
On l'a dit souvent, mais quand une tendance comme ça, un usage comme ça devient mainstream, c'est d'abord que les gens l'ont observé chez les ados sur Twitter ou chez des jeunes sur les forums, sur Tumblr, sur 4chan, etc., etc., qui sont souvent précurseurs et pionniers de ce genre de choses puisqu'ils s'approprient les codes très vite.
Est-ce que vous vous sentez, Daz et Mélissa, notamment Mélissa, ce serait intéressant d'avoir ton avis puisque tu travailles dans l'économie normalement traditionnelle de l'attention, mais est-ce que vous pensez que les règles ont été, comme dit Fibre, elles ont été détournées, hackées, brouillées et que les gens qui les ont détournées et hackées sont aujourd'hui les gagnants de notre époque?
Ah mais c'est horrible en fait le truc de Fibre. Déjà ça m'a déprimé. Hein.
Chronique.
Moi qui suis dans le business de la vérité et de l'attention. Non mais oui, ils ont gagné. Donc le problème avec Trump, c'est qu'il dit une connerie par jour, donc soit t'en parles, soit t'en parles pas. Donc des fois on se dit on n'en parle pas, et d'autres fois on se dit c'est trop grave, faut dire la vérité. Parce qu'il y a aussi ce truc là, c'est-à-dire que faut quand même continuer à prouver aux gens qu'il dit des choses fausses, parce que comme il hack l'attention, du coup, les gens commencent à croire. C'est comme Fillon qui se pointe en conférence de presse et qui dit « Vous dites que je ne suis pas dans la légalité. Eh ben si, je suis dans la légalité. Non. Ouais. » C'est juste que le mec, il l'affirme avec tellement d'aplomb que tout le monde est là genre « Ouais, peut-être, ok. »
Mais est-ce que le hacking est réussi dans le sens où si tu dis rien, t'as perdu en tant que média, et si tu dis quelque chose, t'as aussi perdu en tant que média?
T'es obligé de tout vérifier. Mais en fait, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que même les partis politiques commencent à faire du fact-checking. Il y a Mélenchon qui l'a fait avec une vidéo qu'on vous mettra sur le forum que Sylvain nous a partagée.
Ils l'ont déjà posté sur le forum.
Marine Le Pen fait aussi de la vérification des propos de ses opposants. Donc en fait, ils font croire qu'ils disent la vérité en prouvant que les autres disent faux, au lieu de dire des trucs vrais. C'est ça qui est, enfin, le truc est complètement fucked up.
Est-ce qu'il y a des règles sur lesquelles, donc, cette notion, comme dit Fibre, de faire du bruit, de créer de la polémique, de faire du clickbait, enfin, à un moment d'abord de faire du bruit pour ensuite servir un propos ou pas, mais d'abord faire du bruit, c'est quelque chose que vous avez adopté ou pas? Certaines techniques que vous avez adoptées?
Oui, nous, pour le titre, en fait, comme il y a beaucoup de contenu sur Internet. Ça. Non, mais il y a énormément de contenu sur Internet.
Franchement,
je fais des tests avec des gens autour de moi. Je leur montre un titre chiant et un titre moins chiant qui n'est pas faux. Un titre, tu vois, un titre différent. Le mec, il clique à droite, forcément. Enfin, je veux dire, on est tous ici comme ça.
Ouais.
Et c'est juste une adaptation à la façon de consommer des médias, en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'est les blagues de Libé, aujourd'hui, c'est les titres comme ça. Et Libé fait aussi des titres comme ça aujourd'hui.
Donc,
fait évoluer ça.
T'es d'accord, l'économie d'attention telle qu'on la connaît a été aujourd'hui complètement hacké?
Oui, clairement, mais enfin après, on va pas arriver au moment où on va faire comme Trump et Fillon et dire des trucs faux, tu vois. Mm-hmm. On n'est pas là.
Daz, est-ce que tu sens que t'es dans une période un peu... J'aimais bien cette petite. Je trouvais intéressante cette métaphore du GHB, de l'attention, où à un moment, comme tu dis, Fibre, on mélange quatre choses, c'est ça, on mélange des vrais faits, des faux faits, on mélange un taux d'attention très très faible des gens qui font que les faits en plus s'entassent et se succèdent les uns les autres, et enfin quatrième ingrédient dans ton cocktail,
c'est que les informations disparaissent au bout d'une demi-journée, c'est-à-dire qu'on s'en moque après.
C'est faux, hein, parce que Fillon, ça fait quand même un mois que ça dure.
Mais parce que ça a été orchestré par le canard enchaîné.
Et le quatrième truc, ça n'a pas été orchestré,
ils ont sorti des infos.
Et le quatrième ingrédient, c'est qu'on ne peut pas les vérifier aussi vite qu'elles apparaissent. Voilà. Est-ce que tu sens que t'es un peu groggy par ce cocktail, toi, Daz?
Ouais, mais c'est le corollaire de la puissance des réseaux sociaux d'un autre côté, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que, on a Twitter, on a Facebook, on a tous ces trucs-là, et c'est une source d'information en temps réel qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est les effets positifs. C'était évident qu'à un moment donné, on allait se manger le contre-coup ou la contrepartie de ces effets positifs, à savoir la propagation de fausses informations, de rumeurs et toutes ces saloperies. Enfin, ça fait partie de, tu vois, ton épée, elle est à double tranchant, quoi.
Mais en écrivant ça, moi je me disais, Trump a une mauvaise réputation. Imaginons qu'il ait la réputation d'Obama. Vous avez le président des États-Unis qui dit hier il y a eu un attentat en Suède et toute la Suède dit non.
Ouais.
Ben moi si c'est le président des États-Unis avec la CIA tout ça qui dit ça, ben moi je le croirais lui.
Oui,
c'est ça qui est
deux
fou.
Deux minutes et après la Suède prouve que c'est faux et tu crois la Suède.
Des gens peut-être arriveront à croire que du coup est-ce que la Suède ne cache pas quelque chose. Pour revenir à cet exemple précis.
Oui, c'est des gens qui sont déjà convaincus, qui ont même pas besoin de,
non, si
de
Obama...
faits pour aller dans leur sens en fait. Ils tordent la vérité pour aller. Enfin c'est le biais de confirmation.
Ouais, c'est le fameux biais de confirmation. Ouais. Les gens qui sont curieux et qui ne savent pas, ils vont être convaincus par la Suède qui dit ils sont sur place, ils le savent quand même.
Ouais.
Mais ceux qui sont déjà du côté de Trump et qui ont envie d'abonder dans son sens diront ce que tu dis. Effectivement, les Suédois ne cachent
pas. Montent, bah bien sûr.
Très bien. Du coup, quelque chose du coup me fait un peu hésiter parce que on parle quand même d'économie de l'attention. Ça veut dire qu'il y avait quand même un business avec des règles, des gros joueurs, des petits joueurs, etc. Du hacking de cette économie. Est-ce que on vit dans une, peut-être comme tu disais un moment, dans une bulle ou dans une sorte de parenthèse où c'est un peu le bordel et les choses vont rentrer dans l'ordre, on va revenir à une économie classique de l'attention, ou à un moment, on va revenir à, il va falloir avoir des vraies sources, il va falloir une vraie curation, des gens qui sont certifiés, etc.
Non, je pense
ou est-ce qu'à un moment, on a le brouillon dans lequel on vit actuellement, qui est un brouillon qui vient depuis longtemps, parce que c'est vrai que les titres clickbait, c'est pas nouveau, le buzz pour le buzz, c'est pas nouveau, mais on sent que c'est la norme actuellement, mais est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus traditionnel, comme on va dire, il y a 10 ans? Ou est-ce qu'aujourd'hui, l'état actuel des choses, c'est juste, c'est un grand chaos, mais on va vivre dedans, il faudra survivre.
Pour moi, j'insiste, pour moi, la situation telle qu'elle est, elle changera pas. Par contre, c'est les gens autour qui, eux, vont s'adapter. Il y a une éducation, en fait, à recevoir. Ce que Sylvain disait était très juste par rapport au fait que maintenant, l'éthique, on n'en a plus rien à foutre et on n'hésite plus à balancer des mensonges face caméra sans trembler, tu vois. Alors qu'avant, on le faisait pas forcément. C'est juste que...
On le faisait quand même peut-être moins.
Les hommes politiques,
C'était moins, oui, mais c'était quand même... Enfin, parce que c'était quand même moins...
Sylvain nous a peint un visage un petit peu idyllique des médias d'avant, mais c'était pas non plus...
Non, mais il y avait des choses qui se faisaient, d'autres qui se faisaient pas. Il y avait une frontière qui était tracée au sol et les gens la passaient pas, en fait. En tout cas, les médias la passaient pas. Je pense juste que là, effectivement, maintenant c'est all-in, tu vois, donc chacun fait ce qu'il veut et free for all. Par contre, là, ce qui nous a pris de court avec l'effet Trump et tout ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le peuple n'était pas éduqué par rapport à ce genre de truc. Et maintenant qu'on sait que ça existe, les gens vont petit à petit en fait apprendre à se prémunir de ce genre de truc.
Ouais, mais ce qui est effrayant, à ce que décrivait Fib dans sa chronique, c'est que tout ça, c'est marrant, tu vois.
Ouais.
Trump, il est marrant, enfin tu le regardes,
c'est
ça
vrai
te fait
rire. Il y a côté cartoonesque
au
personnage.
Il humilie les gens, mais ça les fait rire les gens. Enfin, ils ont envie d'être confortables dans ce truc.
Je mets pas Trump au même niveau qu'Hanouna, je suis désolé.
Oui, mais non, c'est pas le même niveau. Mais
ils ont un côté cartoonesque. C'est que Trump, c'est presque un méchant de film romanesque tellement qu'il est ridicule.
Fibre, il parlait de série. Enfin, il y a une espèce de truc qui t'as l'impression d'être dans une fiction géante.
Et tu penses que ça s'ajoute, Mélissa, du coup?
Ouais.
Ça sert un peu à dédramatiser les personnages. Tu dis c'est pas possible.
Clairement, parce que en fait, il y a même, enfin, moi dans la rédaction, par exemple, il y a des gens qui suivent le Twitter de Trump tous les jours, parfois amusés.
Oh, le job de merde.
Non mais c'est pas leur job, tu vois. Mais ils regardent en rigolant parce que ça a une dimension que c'est tellement dingue que ça devient drôle et donc il y a un truc d'addiction et qui peut franchement faire que c'est marrant le truc mensonger trop gros, alors que la vérité, la finesse, la subtilité, c'est plus compliqué, c'est plus dur, et t'as pas envie de te faire chier à aller chercher tout le détail du sondage, quoi.
Tu vas lire le gros truc.
Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant le fait que Trump, il est comme ça, cette figure du personnage de fiction complètement caricatural.
Physiquement, dans les manières, dans tout est caricatural.
Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui s'informe beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la télé, presque à 100% de la télé, il a tout le temps la télé en boucle.
Pas n'importe laquelle, il a
plusieurs chaînes, mais voilà, c'est comme ça qu'il s'informe. Et je pense que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a regardé beaucoup la télé, a dû regarder beaucoup de séries, a dû regarder Dallas, des choses comme ça. Et il a cette figure de l'américain, mais c'est un pur produit de la fiction américaine, en fait.
Mais est-ce que c'est une forme de hacking aussi, ou comme le dit Mélissa, en fait, tu touches plus de personnes en grossissant des traits, en devenant caricatural, qu'en essayant d'être dans la modération et la crédibilité, comme aurait pu être un homme politique, on va dire, plus classique, par exemple. Est-ce que c'est une forme de hacking de l'attention,
Je pense, parce que c'est divertir aussi, c'est être dans l'excès, dans la provocation pour faire réagir. Donc, il sait qu'il va déchaîner les médias. En plus, il a eu une couverture médiatique pendant sa campagne qui était ouf.
Ouais.
Pas parce qu'il y avait de l'adhésion, mais parce qu'il y avait tellement de choses à raconter sur ce qu'il était en train de faire chaque jour.
Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'effet concret de sa politique qui fait rigoler tout le monde. En fait, les gens n'ont pas encore payé les pots cassés par rapport à ça. Quand il va vraiment passer ses premières mesures concrètes et que les gens vont vraiment se retrouver au pied du mur avec un changement radical de leur mode de vie ou de leur style de vie, là, on enlèvera l'aspect. C'est drôle.
Ouais. Mais c'est quand même intéressant de ce que dit Mélissa, c'est de se créer des personnages, en fait. Et là, on est aussi dans la culture du hacking où tu te crées carrément une identité. Il a une identité un peu de calife. Poutine, il a une identité de méchant de James Bond. Mélenchon, avec son hologramme, il joue complètement dessus à un moment.
Et puis même, nous, on regarde tellement de séries, de trucs qu'on se dit, on vit dans ce qu'on regarde depuis des années. Ouais, quoi. Ouais. Ça y est, on y est arrivé.
C'est assez séduisant, du coup, comme concept. Fibre.
Oui, je voulais juste rebondir sur une question que tu as posée. Il y a deux questions de ça qui étaient. Où est-ce qu'on va avec tout ça?
Le mec qui suit le débat.
Où est-ce qu'on va avec tout ça? C'est-à-dire, si toutefois il y a
un crash économique de cette économie de l'attention, un jeudi noir de l'économie de l'attention. Où est-ce qu'on va? Et moi, bon, je voulais mettre ça dans ma chronique, mais c'est...
Non, mais
c'est
vas-y, fibre.
Alors, première conséquence possible, finalement, il peut y avoir un crash économique de l'économie de l'attention, et du coup, on s'en fout. C'est-à-dire que demain, ils sont là, mais on se remet à cultiver notre petit jardin privé de vie. On vit entre nous, et on s'en fout de l'extérieur, il n'y a plus de chaîne d'infos.
Donc, comme dit Daz, il y aura une forme d'évolution, une sorte de darwinisme de l'attention qui va se créer, voilà. C'est que
ça peut être
nous les récepteurs, on va évoluer.
Ça peut être la première façon. Et sinon, j'ai une autre solution un peu concrète. C'est pourquoi ne pas inventer le daily de mensonge. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un compte fictionnel sur Twitter ou Facebook, c'est-à-dire que vous ne produisez pas de la fiction, donc vous produisez de la non-fiction, eh bien, quand vous faites un mensonge, il y a préjudice. Et donc, dans ce cas-là, vous devez être poursuivi et payer une amende.
L'autorité de la vérité.
C'est une belle société.
Franchement, j'aimerais beaucoup, mais c'est vrai.
Une belle mesure du président Fibotier.
Si tu fais ça, t'es le premier à partir en tôle.
Mais non, parce que tu peux, si tu mets sur ton compte fiction.
Bah oui, mais tout le monde va le faire.
Mais si Trump met fiction, là, dans ce cas-là, le mec, il est pas crédible.
Des idées.
Mais oui, c'est ça, il peut pas être fiction, justement. Donc lui, il est en délit. Mais justement, tout le monde peut être fiction, mais si tu mets non-fiction.
C'est marrant parce que, Fibre, des fois, ses idées, c'est, tu vois, la partie émergée de l'iceberg qui est la bonne idée, et t'as toute la partie émergée de l'iceberg.
C'est une catastrophe humanitaire.
Qui est le mindfuck énorme qui va arriver, qui va briser la société, dans ses fondements. En tout cas, on laissera les auditeurs, nous expliquer comment eux, ils ont évolué par rapport au fait d'avoir été hackés toutes ces dernières années dans leur attention et comment ils évoluent ou pas. Et deux, si ils peuvent imaginer un grand crash, un grand reset de la société de l'attention. On verra. Allez, on attaque tout de suite la première FAQ.
FAQ.
La première FAQ nous vient de Podcast Universe. Oh là là. Un podcast qui parle des podcasts, dis donc, ça commence à devenir un sacré secteur. Pour moi, hein. Il va falloir qu'on sorte le nôtre, là, je vous préviens. Plus sérieusement, Podcast Universe nous dit... Alors, une question de partie. En un, pourquoi appelle-t-on licorne les startups à gros potentiel? Et en deux, par quel terme souhaitez-vous le remplacer? Donc, je vous rappelle, hein, les licornes, ce sont des startups qui sont aujourd'hui évaluées à plus $1 milliard. Après, je vous dis pas comment le terme est né, mais bon, c'est banal. Mais alors, déjà, est-ce que vous savez comment est né le terme licorne?
Absolument pas.
C'est quelque chose de rare.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose
qui n'existe pas, en fait.
Quelque chose de mythique et de rare, ouais. Bon, c'est une.
S'agit des arcs-en-ciel.
Je crois que c'est un venture capitaliste ou une venture capitaliste qui a essayé à un moment de faire un buzzword sur un slide de présentation et qui cherchait un terme et c'est parti avec unicorn et c'est resté en tout cas.
Parce que c'était mignon.
Ouais, c'était mignon pour un truc.
Mais surtout que ça n'existe pas en fait.
Bah oui.
Bah du coup, on en a beaucoup en ce moment des licornes qui n'existent pas. Hein.
Ouais.
Des unicorns. Mais effectivement, dans le monde de l'entreprise, ça devrait pas exister un truc comme Uber, ça c'est sûr. Et alors du coup, Podcast Universe nous dit, si on devait remplacer Unicorn par un autre terme, comment vous appellerez-vous des startups valorisées à plus $1 milliard, parfois à tort, parfois à raison? Est-ce qu'il y a un petit terme que vous voudriez...
Il faudrait un joli mot français, un petit peu désuet.
Ouais.
Des gargouilles.
Des gargouilles, ah
ouais,
pas mal.
C'est pas du tout désuet.
Ouais, un petit peu quand même. Ça fait combien de temps que t'as pas utilisé le mot gargouille dans ton vocabulaire?
Moi je m'en sers tous les jours.
Tous les jours, je passe devant Notre-Dame.
Regardez les gargouilles.
Gargouille pour Sylvain. Est-ce que vous avez une proposition, chers collègues, ou pas? Ou est-ce que licorne, ça vous va très bien?
Ben non, il faudrait au contraire utiliser des mots marketing français, tu vois, des mots de mercatique.
Un i-cheval à corne.
À haute valeur.
Non, je sais pas, oui, une start-up à gros potentiel, une SGP.
Ah mais tu utilises le mot start-up déjà, donc tu veux franciser unicorn.
Oui, d'accord, okay, une jeune pousse à haut potentiel.
Tu vois, alors, ou à gros potentiel. Une JPHP.
Une JPHP, ouais.
Une JPHP pour Daz. T'as le vrai héritage Cogip qui coule dans tes veines, toi. Hein.
Ah ben.
Les acronymes, quoi.
Alors, Fibre, mais ça, est-ce que vous avez une idée ou pas?
Alors, pour les entreprises à gros potentiel qui réussissent.
Mais que c'est quand même un peu miraculeux.
Ben voilà, des miracles.
Des miracles.
Et pour celles qui échouent, je dirais des tragédies.
Ok.
Très miracle et tragédie.
Non, en fait, c'est pas celles qui échouent, c'est celles qu'on sait dont la valorisation est vraiment surélevée.
D'accord.
Parce qu'on sait une tragédie, on sait comment ça va se terminer et pas très bien.
Mais un milliard, tu sais que la valorisation de toute façon est trop élevée.
Pas forcément.
Bah non, regarde Twitch. Ils en valent 25 aujourd'hui. Enfin bon, bref. C'est peut-être une méga licorne. Et Mélissa, est-ce que tu as une idée ou pas d'un petit terme affectueux pour des entreprises gigantesques avant de faire quelques recettes?
Une pyramide.
Une pyramide de Ponzi.
De Ponzi.
Voilà.
Très bien. Et ben voilà, Podcast Universe, tu as ta réponse. Des gargouilles, un JPHP, un miracle, une tragédie ou une pyramide. Allez, on attaque tout de suite la seconde chronique et c'est Daz qui prend le relais. Il va nous parler de jeux vidéo, bien sûr.
Sujet numéro 2.
Soyez un gamer éco-responsable. Jouez local.
Ah, mon petit daz.
Ceci est un communiqué de la Fédération Internationale des Super Skills Hors Pro Unis et Techniques. Gamer, gameuse, nous, à la fils de pute, on en a gros.
La fils de pute.
La fils de pute, tout à fait. Nous sentons un revirement depuis quelques temps. Un retour aux valeurs poujadistes comme la prise de bon temps, les amis et la famille pour remettre au centre du jeu le multijoueur local. Bill Vezet et Cal Ambreden que tout cela. Les observateurs aguerris l'auront aussi remarqué avec la sortie de la Switch de Nintendo qui privilégie elle aussi les sessions à plusieurs. On tend à délaisser le jeu en ligne au profit du multilocal, gage de convivialité. La convivialité comme seule explication pour tourner le dos à presque 20 ans de progrès technologique. La convivialité que l'on oppose désormais frontalement au marqueur qui faisait jusqu'ici loi dans le monde du gaming, le skill. Ne nous mentons pas. Le tissu même du pro-gaming est en train de s'effilocher doucement sous les coups de cutter de la convivialité. Les promoteurs de cette fumisterie nous parlent convivialité, mais nous, en tant que fils de pute, savons de quoi il retourne. La convivialité a bon dos. La convivialité sert de cheval de Troie pour tenter de masquer le mal profond qui mine les nouvelles générations de joueurs et qui va bien plus loin que la simple recherche de chaleur humaine sur un canapé. Le vrai souci, camarades, c'est le baltringage. Le baltringwing, comme on dit dans la langue de World Ivy. Cette propension à fuir toute confrontation et à modeler puis se réfugier dans un environnement sûr et confortable. Nous sommes entourés de baltringues au quotidien. Vous l'avez certainement déjà remarqué sur les réseaux sociaux. Généralement avec des comptes qui postent des avis assez tranchés puis qui bloquent toute personne ne pensant pas exactement la même chose. Les personnes s'adonnant au baltringage ne supportent ni l'opposition, ni la frustration et encore moins la défaite. Normalement, quand une personne saine d'esprit se retrouve en jeu face à un adversaire plus aguerri et perd la partie, elle s'entraîne pour revenir plus forte et sortir victorieuse. Les baltringues ne pensent pas comme cela, non. Eux, ils coupent court à la confrontation et se réfugient dans leur cocon tout doux, où les joueurs se connaissent, sont tous copains et jouent en co-op. On en est là en 2017, avec des termes comme couch co-op, donc co-op de canapé, qui apparaissent désormais pour catégoriser des jeux, alors que dans le même temps, il n'a jamais été aussi simple de se faire ouvrir en 6 secondes par 3 cheaters russes sur n'importe quel MOBA. À la fils de pute, nous ne sommes également pas dupes d'un autre fait, expliquant ce retour en grâce du multijoueur local, la surabondance des studios indépendants, les indés comme on les appelle. Enfin là, le studio, faut le prendre au terme foncier du terme. Les indés développent littéralement dans un une pièce, voire un deux pièces atypiques mansardés, si leur jeu en couch co-op a le vent en poupe. Ces studios fondent souvent le cœur de leur jeu sur des mécaniques vues et revues, dont la simplicité peut être taxée de bêta, au sens cognitif du terme cette fois. Du coup, pour corser un peu la recette, les indés font en sorte de faire collaborer 4 joueurs idiots devant se coordonner pour passer des niveaux qu'un dauphin tétraplégique pourrait speedrunner avec une nageoire dans le dos. Prenons les pitchs de quelques titres couch co-op, parmi les plus populaires au sein de la scandaleuse communauté du forum de qualité, et observons à quel point ils sont révolutionnaires. Alors, je vais pas dire les titres, je dis juste le pitch.
Ah si, il faut les titres.
On va les deviner.
Vous allez les deviner. En travaillant en cuisine, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte.
C'est Overcooked.
Super. Attachez vos ceintures jusqu'à 4 joueurs pour blaster à travers les niveaux et éliminer la force terroriste qui menace notre mode de vie.
Super Broforce.
Broforce.
Ouais. Broforce.
C'est un jeu local 4 joueurs centré sur des matchs en versus intense et hilarant, inspiré par les classiques de l'âge d'or du multijoueur canapé.
Towerfall.
Génialos, Towerfall, exactement.
Il est trop bien Towerfall.
Camarade gamer, rappelons-le ici, parler de l'âge d'or du multijoueur canapé pour le jeu vidéo, c'est comme parler de l'âge d'or de la mort à 30 ans quand on parle du Moyen-Âge. Le multijoueur canapé, c'est une contrainte à la base, on n'avait pas le choix il y a 25 ans, c'est tout. En 2017, on l'a le choix. Mais les studios indés, paresseux, sans ambition autre que de vivoter, préfèrent mettre de côté le mode online, qui demanderait certainement un peu plus de travail côté netcode et game design, et puis un léger investissement dans des serveurs peut-être. Les indés indolents cherchent avant tout l'argent facile auprès des joueurs victimes, qui n'ont pas compris que quand on chassait le mammouth à la préhistoire, c'était pas parce que c'était cool, c'était juste pour survivre. Donc voilà, l'industrie redécouvre le jeu local, les jeux de plateau qui impliquent de réunir des joueurs autour de la table ont à nouveau le vent en poupe, on ouvre même des nouveaux salons qu'on leur dédie avec la mention Unplugged derrière, comme si les gens qui jouaient à Donjons et Dragons s'éclairaient vraiment à la bougie. La fils de pute assiste donc impuissante à l'Amélie Poulénisation du jeu vidéo.
Oh là là.
Un retour souhaité à un jeu vidéo qui n'a finalement jamais réellement existé et qui ne permettra plus aux meilleurs d'émerger. Les joueurs se noieront dans leur médiocrité et inonderont le monde de stream de joueurs basiques et lambda, sans aucun skill et sans aucun intérêt. Le jeu multi ne prend toute sa saveur que s'il est également jouable en ligne. Faire du jeu multi local uniquement, c'est un retour en arrière sur la route du progrès. Un non-sens complet Mais dans un monde où les vinyles se vendent mieux que les CD, la fils de pute peut définitivement déclarer que plus rien ne l'étonne.
Alors on rappelle l'acronyme des fils de pute quand même.
Alors oui, l'acronyme des fils de pute, j'ai galéré pour le trouver. Hein. Alors, c'est la Fédération Internationale des Super Skills Hors Pro Unis et Techniques.
La fils de pute.
La fils de pute.
Est-ce que tu y crois à la fils de pute ou est-ce que tu y crois quand même à moitié à ces gens qui sont anti-jeux, qui se jouent ensemble, ouais, dans la même salle, dans le même canapé, on rigole ensemble, au lieu d'aller se frapper contre des mecs en matchmaking qu'on ne connaît pas et qui nous insultent?
Ouais, il y a un petit peu, bah, je pense que on les, là clairement c'était un truc de PGM un peu vénère, tu vois, mais ouais. Je pense qu'il y a un peu de vrai aussi.
Ah ouais, tu trouves?
Ouais, c'est vrai que le jeu multi, le vrai jeu multi sur des jeux qui sont compétitifs type FPS.
Ouais.
C'est vrai que c'est enfin quand tu attaques ce type de jeu, quand tu commences dedans, faut quand même accepter de servir de victime pendant pas mal de temps avant de commencer toi à prendre le lead quoi, tu vois.
Donc DAS défend un jeu multi qui est un jeu multi dur qui forme des gens, des vrais qui les hein qui les ont endurcis par un coup de fouet seul devant son écran, donc vraiment sans soutien psychologique, sans fun possible. Est-ce que vous adhérez à cette vision?
Jeu, ouais.
Est-ce que vous adhérez à cette vision de fils de pute?
On dirait une chronique du 15-18 contre les fragiles.
Attention à ce que tu dis, Sylvain.
Ouais, je sais.
Tu vas avoir des problèmes sur le forum 15-18.
Je compare DAS au 15-18. Non, mais tu peux faire du FPS en LAN, je comprends pas. C'est toujours du multilocal.
Ah, oui, non, mais là, il dit des jeux qui t'obligent. Ah,
c'est le couch. C'est le couch.
Ouais, ouais. Qui t'oblige à jouer sur le même écran en local. Tout, bah, vraiment unis tous ensemble.
Moi, je retrouve du portrait craché de DAS, qui dit que les fixies c'est de la merde parce qu'on a inventé les vitesses, qui explique que les casus, c'est des teubés par rapport à la PST Master Race, ce genre de choses, quoi.
Non, on a dit, on fait une mission old school, hein.
Je suis pas étonné par ce discours de DAS.
Il est pas de moi, attention.
Qui est un discours d'intolérance, par rapport à...
Il est pas de moi.
J'ai
pas inventé cette blague raciste que je viens de dire. J'ai juste répété.
C'est un communiqué. Moi, j'y suis pour rien.
Oui, DAS n'a fait que écrire et réciter le communiqué du mouvement fils de pute.
Fibre, toi qui joue à des jeux, qui crée des jeux, qui joue à, vas-y, dis-nous. Alors, déjà, mini détail, mais important. Moi, je joue à Donjons et Dragons à la bougie, hein.
Tu sais, quand je l'ai écrit, j'ai dit, je suis sûr que Fibre va me dire que lui, il le fait.
Donc, non, mais c'est même un composant essentiel. Mais cela étant,
est-ce que c'est des bougies parfumées? C'est juste pour le détail.
Non, c'est des bougies un peu gothiques, tu vois. Il faut être dans l'ambiance, il faut un crâne, il faut un dragon en bronze, tu vois. Bref. Aujourd'hui, il faut faire un constat.
Ouais.
Qui est qu'il y a des jeux en coop, genre couch, mais ça marche pas du tout. C'est-à-dire
commercialement
les unités vendues sont de l'ordre du millier, ce qui est très faible.
Ouais.
C'est-à-dire, quand un jeu sort, alors souvent il a beaucoup de prix parce que effectivement en salon vous êtes avec vos potes, vous êtes avec un autre mec, vous jouez sur place, vous dites ah il est vraiment fun, mais après malheureusement je crois que le mobile, et je crois qu'aujourd'hui on a des modes de vie solitaires, non pas parce que vous êtes tout seul chez vous, mais vous êtes tout seul dans une sorte de bulle qu'on a dans le mobile ou dans le jeu ou dans, et cette bulle n'a pas encore éclaté, donc on n'arrive pas à intégrer des gens et ça se vend pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un petit boom du jeu de société, par contre, qui se fait à côté.
Qui est une forme de jeu local tous ensemble.
Bah, tout ouais. À fait.
Que ce soit des jeux de plateau numérique ou pas.
Voilà. Et ma théorie, c'est que le jeu local, le Street Fighter à l'ancienne sur le canapé, ça, il y en aura pas dans le futur. C'est-à-dire que ce sera que du en ligne. Et que le jeu société qui est en train de se développer et de s'épanouir, en fait, ce sont des gens qui n'étaient pas destinés à jouer, qui, pour eux, le jeu, le Counter-Strike en ligne, c'est quelque chose de très loin d'eux, et c'est un peu leur première marche d'escalier. Tiens, on va acheter...
Tu parles des casus, là?
Non, je parle même...
J'ai même pas besoin de le placer,
Je parle même des... Des seniors, tu vois. Des seniors qui se disent, tiens, ils vont acheter un Scrabble à un magasin de jeux de société, et puis ils s'aperçoivent qu'il y a plein de jeux. Et ils disent, ah, oh, c'est un jeu, je sais pas, Pandémie, ça a l'air cool, tiens, on va l'acheter, on va faire une partie. Et
Pandémie, ça a l'air cool.
Jouer à Pandémie, c'est un super jeu, hein, mais voilà. Donc, voilà, il y a cet aspect d'évangélisation de, on se tourne vers une société de loisirs et de jeux, votez à mon, voilà. Revenu universel.
C'est quoi? Là, il a mis un petit ingrédient dans son cocktail, et tiens, il a ajouté un peu de hacking, de trouble d'attention, là, il a mis un truc, je sais, mais attends, c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est à toi qui, donc,
moi qui suis, tu es notre. En dessous casu.
Tu es notre base 100 du gamer, c'est-à-dire ouais, que tu connais le jeu vidéo de nom, t'en as déjà vu, tu n'as
non,
pas
trop joué.
Non,
j'ai joué à Street Fighter quand j'avais 10 ans,
voilà,
souvenez-vous de ça.
Street Fighter qui est un des étendards du jeu multijoueur en local, même si maintenant c'est jouable en ligne.
Moi c'est un peu la seule chose à laquelle j'ai joué.
Bah, le gros niveau, c'est en ligne quand même.
Ouais, mais le gros plaisir, c'est de jouer avec ses potes. Et toi-même, t'es un membre du Street Club.
Oui, bien sûr, mais on est nul, on le sait, tu vois. Oui. Voilà, c'est ce qui émerge, c'est justement le fait que tu puisses jouer, t'opposer à des mecs alors qui ont un niveau incroyable.
D'accord, ça on en parlera après du niveau, enfin de la question de niveau. Mais toi, mais ça, est-ce que c'est un truc qui te botte de dire que tu vas faire une soirée avec des potes pour jouer un jeu ensemble, enfin les uns contre les autres ou ensemble, mais en tout cas ensemble géographiquement dans le même salon, ou est-ce que t'es plutôt du genre à dire bah si je veux jouer avec quelqu'un en fait avec mon téléphone connecté ou avec mon ordinateur, je préfère jouer comme ça peinard chez moi.
Non, j'aime bien les gens. Enfin, contrairement à ce qu'on peut croire. J'aime bien les gens, donc j'aime bien jouer avec des gens. Et c'est vrai qu'il y a un espèce de revival, ça doit être dans ma bulle à moi, de ouais. jeux de société. Ouais. C'est-à-dire que les retours des soirées jeux de société, je commence à voir ça. Et j'ai participé à une seulement.
C'est parce que vous vieillissez.
C'est ça.
Tu joues à quoi?
Au Monopoly.
D'accord.
Ah ouais. Trop drôle.
Alors, il faut jouer. Ce qui est bien, Monopoly, il faut jouer roleplay. Tu vois, tu joues Bétancourt, tu joues le Qatari, t'es la banque, tu supplies, t'as le droit de voler.
Tu joues mais c'est génial. Passer, hein. Tu joues le Tekel, génial.
Je suis la chaussure.
Tu joues le haut de forme.
Après, ça m'a pas fait revenir, quoi. Enfin, ce jeu, ouais. Au jeu vidéo.
Moi, je pense que le multi-couch, le coach multi,
ouais.
Arrive dans deux moments de ta vie, dans deux situations. C'est quand t'as des colocataires,
ouais.
Ou alors quand t'es en couple.
Ouais, c'est vrai.
Eh bien, non et non.
Parce que tu joues tout le temps, toi. Donc,
non, je joue pas tout le temps, mais c'est vrai
que tu joues pas au multi parce que ta meuf joue pas aux jeux vidéo. Sinon, ouais, sinon tu chercherais des Towerfall et
mais
des
je pourrais essayer de l'engrainer justement en me disant tiens viens on va jouer à Overcooked mais en fait c'est nul.
Overcooked c'est génial
mais c'est
ça
nul.
Ça se trouve ça la ferait revenir pour après qu'elle joue à Elite.
La mécanique
Overcooked c'est le genre de jeu qui
pue la merde.
Ouais, mais Overcooked c'est exactement un jeu, donc on rappelle, c'est un jeu de cuisine en multijoueur où tout le monde est sur le même écran.
De cuisine gros guillemets.
Oui, bon bref, la cuisine est une excuse où chacun doit préparer des plats et les servir le plus vite possible, et donc chaque joueur doit travailler avec les autres, mais en même temps, chaque joueur peut devenir un handicap pour les autres s'il fait n'importe quoi.
Ouais,
en
voilà.
Gros.
Donc en fait, c'est que la mécanique de jeu.
Mais le jeu ne peut pas marcher. Enfin, le jeu ne marcherait pas si c'était en ligne, puisque tu ne rigoles que quand t'es avec tes potes et que tu peux faire des conneries et te hurler dessus, mais en rigoler à la fin.
C'est-à-dire que c'est juste un outil pour te permettre à toi de créer des situations IRL en fait drôles, tu vois,
de conflits drôles.
Donc en fait, tu pourrais faire la même chose en ouvrant une note sur ton iPhone et en écrivant des bouts de phrases, et puis chacun enchaîne derrière et puis tu rigoles. Et venez, on fait un baccalauréat, tu vois. C'est de la merde, c'est nul.
T'es contre les jeux de cartes, par exemple?
Non, parce que ce sont des jeux de cartes, ce sont pas des jeux vidéo de cartes.
Ah, donc toi, c'est marrant, parce qu'un jeu vidéo ne doit pas être
c'est pas pour moi, encore une fois, c'est pour la fils de pute.
Oui, bien sûr.
Attends, moi je prends du plaisir à jouer, effectivement, tu l'as dit, à Street Fighter en bande organisée, mais en fait, j'ai plus de mal, je suis pas contre le multi personnellement, là c'est Daz qui parle. Je suis pas contre le multi local tant qu'il y a
on dirait Fibre qui parle.
Tant qu'il y a du multi en ligne qui est d'accord. Accessible aussi, c'est-à-dire que un jeu qui lui fait le parti de dire tu ne joueras à ce jeu que quand tu auras trois potes avec toi sur ton canapé. Bah, ça fait comme la Wii et tu joues jamais.
Non, mais déjà, il faut avoir un grand canapé. Et quand il y en a un qui joue, qui scrolle sur Twitter pendant qu'il y en a deux qui jouent, tu vois. Enfin, le monde n'est plus adapté à ça. C'est fini. C'était les années 90, les années 2000. Et aujourd'hui, on a.
C'est le contraire, Philippe, qui est en train de se passer.
C'est très compliqué. Si tu arrives à avoir la même personne sur la même longueur d'onde, dans la même pièce que toi, en général, tu lui fais l'amour, tu vois. Tu vas pas jouer à Overcooked. Parce que c'est trop rare quand ça arrive. Non, mais c'est vrai. C'est trop rare. Donc, du coup, voilà, ces jeux-là, ils vaut mieux. Et par contre, quand tu vas en ligne et que tu dis je veux jouer avec quelqu'un, plaf, tu es aligné avec l'une des 10 000 personnes et là, tu peux jouer.
Le sexe, qui est un jeu de multi-coach aussi. Hein.
Multi-coach aussi, ouais. Ouais, ouais. Enfin,
qu'on peut aussi pratiquer en ligne, mais c'est moins marrant.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Bon, alors, et plus sérieusement, il y a quand même. Donc tu parles de la Nintendo Switch, donc on va en parler évidemment,
ouais.
Mais des jeux comme Mario Kart ou Mario Party ou des choses comme ça sont le symbole de la beauté de jouer avec ses potes en vrai. Moi je joue jamais à Mario Kart en ligne pour le matchmaking, tu ne joues que quand t'es avec des potes, tu enfiles des manettes et c'est pas important de savoir qui gagne, c'est important de savoir qui fout le bordel et qui rigole. C'est le symbole quand même des jeux coop ou multijoueur en tout cas en local, et le seul intérêt c'est de réunir ces deux conditions.
Ouais, mais encore une fois, Mario Kart te permet de jouer en ligne.
Oui, mais il y a aucun plaisir à jouer en ligne à Mario Kart avec des
moi,
inconnus.
J'ai des Yoshi, je perdais tout.
Il y a aucun plaisir à jouer en ligne avec des inconnus pour les gens qui ne veulent pas performer.
Oui, alors voilà. Alors ouais, c'est notre question.
Ouais. Bah oui.
Est-ce que forcément un jeu tu dois être dans la perf et le matchmaking et grinder des levels, etc.
Attends, quand on a mis en place, enfin internet est arrivé, les connexions haut débit machin etc. Un des premiers rêves c'était de dire putain tu vas pouvoir jouer avec la crème de la crème à n'importe quelle heure du jour et de la nuit même s'ils sont à l'autre bout de la terre.
Ah, ça c'est ta vision. Enfin, la vision.
C'était quand même une des promesses.
Non, mieux que ça. Je prends par exemple les gens qui aiment jouer. Excusez-moi, il y en a au go, aux échecs.
Pourquoi tu t'excuses?
Non, parce que voilà, parce que tu vas jouer avec des gens qui ont plutôt ton niveau. Et ça c'est cool parce que c'est comme ça que tu progresses. C'est pas jouer en jouant avec les meilleurs. Ça c'est important.
Ah, oui, mais enfin, ça c'est le matchmaking.
En jouant avec les meilleurs ou en jouant avec des gens qui ont ton niveau, de toute façon, il y a cette notion de progression. Quand toi tu joues avec ton pote, par exemple, moi sur GoldenEye 64,
ouais,
on jouait avec un groupe de potes, ok, à un moment donné, mon groupe de potes à moi, on était peut-être dans le top 3 de la ville, tu vois. Et tous les quartiers, en fait, il y avait des groupes de 4 joueurs qui venaient et puis ça s'affrontait, mais je veux dire, ça restait ultra local.
Ouais.
Tu vois, tout comme quand je jouais à Daytona USA, j'avais l'impression d'être bon jusqu'à ce que je vois une vidéo d'un japonais, tu vois. Et là, j'ai dit, ah putain, ouais, ok, c'est ça le vrai niveau.
C'est marrant que t'indexes le plaisir du jeu vidéo à plusieurs avec le niveau.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, en fait, t'es un borgne au Royaume des aveugles, tu vois. Ouais. T'es le meilleur de tes potes, ok, mais en fait, t'es que dalle. Et toi, tu prends même plus de plaisir puisqu'il y a zéro progression, puisque eux sont nuls.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez forcément besoin d'avoir un objectif ou un rival ou un challenge
pour prendre du plaisir? Ne me dites pas que vous jouez pas pour gagner, je n'y croirais pas.
Non, mais tu peux.
Je joue pas Mario Kart pour gagner.
Moi, j'ai envie de défendre.
Moi, je joue pour pas perdre.
J'ai envie de défendre la coop. Moi, j'aime beaucoup la coop. Je trouve ça génial. Un Left 4 Dead, c'est quand même excellent, quoi.
Moi, je joue à Left 4 Dead en ligne et je me marre 10 fois moins que quand je joue à Left 4 Dead en local avec des potes.
Ouais.
Mais tu vois, Left 4 Dead, pour en avoir fait certains avec vous à l'époque, on montait des LAN, etc. Moi, c'est pas, ça m'a pas.
Ok.
Non mais excusez-moi, c'est compliqué de monter des LAN.
C'est plus compliqué en fait de réunir des gens. Ça reste une contrainte.
Une DS pour jouer à Mario Kart, il y en a une par foyer en général. Voilà, ça reste de la logistique et même pour l'histoire du canapé, je veux dire un truc ridicule, mais à Paris, c'est compliqué d'avoir un canapé suffisamment grand pour accueillir plusieurs personnes.
Effectivement,
parce que,
assez ridicule, mais ok.
Non mais voilà. Non mais
j'adore d'avoir le tout canapé vivre le Parisien, ça, j'adore ça.
Non mais il y a des choses.
Je sais pas pour vous en province, mais ici, il n'y a que des canapés de.
Je tiens pour ne pas aller sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, pour ne pas faire toutes ces choses qu'on nous propose aujourd'hui. Aller chez quelqu'un pour jouer à un jeu chez lui, c'est compliqué. Enfin, je trouve que la démarche est compliquée aujourd'hui.
Ah, c'est marrant. Moi, j'ai fait il y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. On a fait une journée Overcooked chez un pote.
Encore une fois, moi, c'est pas tant le fait de regrouper les gens, c'est surtout que du coup, ça sert d'excuse. Tu vois, tu prends le cas d'Overcooked. En fait, la mécanique de jeu en elle-même, elle est ultra conne. Et ce qui crée l'intérêt, c'est justement de voir les gens qui font n'importe quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que le jeu en lui-même, il est creux, il est vide. Overcooked, en fait, pour moi, c'est moins bien que Comics Bakery sur MSX. Et j'y joue en 86, tu vois. Et en plus, il y avait des ratons laveurs. Et tu pouvais tuer les ratons laveurs. Non, voilà. C'est-à-dire que les mecs se disent, comme notre jeu, de toute façon, on va l'orienter, couch co-op, multi-local.
Ouais.
On peut faire un truc, mais ultra con.
Mais non, c'est bien foutu. Si, parce que les levels sont bien foutus, t'es dur.
Hey, on va cuisiner sur la banquise. Ah, c'est génial, ça fait déraper les joueurs. Ok, super.
Alors regarde, Sylvain est mort de rire juste au cul, tu l'as dit.
Ça vient, ça me fait penser à Bomberman, ça.
Eh ouais, Bomberman, regarde Bomberman.
Non,
naze.
Bomberman, je suis d'accord.
Bah, Bomberman, est-ce que t'as envie d'y jouer seul en ligne chez toi? Parce que t'as envie de jouer avec des potes et de
si
leur
tu
hurler
devenir le
plus gros FDP.
Terroriste de la Terre, oui.
Okay. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui sont radicalisés sur Bomberman.
Mais bien sûr.
Il y a un story mode assez intéressant dans Bomberman, donc ça vaut
le story mode, ouais.
Bon, on avait dérapé du sujet, mais on revient dessus. La Nintendo Switch, qui est une console portable et de salon, mais qui surtout offre un mode où on va pouvoir se connecter sans fil ou avec fil à plusieurs jusqu'à 8 voire jusqu'à 10 sur Splatoon 2 avec deux modes spec. Mais en tout cas, c'est le retour du je vais chez mes copains ce soir, j'emmène ma Switch et tout le monde aura sa Switch et on se pose ensemble et on joue chacun sur nos Switch mais ensemble.
Franchement,
je suis sûr qu'il y aura 4 prises pour les recharger.
Franchement, ce tableau là est quand même
parce qu'à Paris, on a pas beaucoup de prises.
Bah, à Paris, il y a qu'une prise par foyer.
Bah, souris, il y a le PC branché dessus et la lampe IKEA, OK.
Ce tableau là en fait que tu vends, il est chouette, et pour moi, il est plus chouette que ce qu'il y avait, par exemple, quand ils ont teasé la Switch, tu sais, ils ont fait une petite vidéo où tu voyais la meuf,
la fameuse Karen,
qui arrive sur un rooftop avec sa Switch pour dire, bon, ben, fin de la soirée, maintenant, on va tous jouer autour de ma console, et là, tu dis, mais barre-toi avec ta console
de
Nintendo. Merde.
Mais dans l'idée de se dire que t'as ta console un peu partout sur toi.
Ouais.
Et tu peux la trimballer et te connecter avec des potes facilement, comme ça, les deux se reconnaissent et vous jouez ensemble ou l'un contre l'autre sur des jeux. C'est plutôt excitant.
Si, encore une fois, si le jeu permet également de jouer en ligne,
ouais.
Pour moi, il n'y a pas trop de problème. Et l'idéal pour moi, ça serait un truc genre du jeu où tu peux faire de la coop avec en même temps un mode en ligne. C'est-à-dire que je joue avec deux potes contre trois autres mecs sur Internet, tu vois.
Ah, comme ça,
c'est un truc un mode mixé, c'est-à-dire que tu joues effectivement avec des gens qui sont proches de toi contre d'autres mecs.
En fait, ce que tu condamnes, toi, c'est la paresse des développeurs.
Mais
quoi.
Complètement, c'est les indés, c'est à cause des indés, parce que voilà, un mode en ligne, on sait que c'est compliqué à mettre en œuvre.
C'est à cause de ces connards qui n'ont pas d'argent pour développer.
C'est bien, on avait passé de débat sans fin sur forme de qualité.
C'est à cause des indés que tu as des jeux qui sont complètement gogol. Mais Broforce, génial les gars, joue à Turrican.
T'as joué à Towerfall. Towerfall, il est génial.
Mais c'est pourri, putain, j'ai pas envie de jouer. J'ai arrêté de jouer à Gauntlet en 90, quoi. Mais merde.
Alors, comment tu peux comparer ça?
Bah, si, c'est la même chose. Okay. Mais en gros, c'est à cause de ces cons-là que tu as pas de mode en ligne, parce que tu comprends, ça coûte cher, et puis il faut une infra, etc., machin. Du pixel art. Tu vois, donc, c'est du pixel, c'est super joli. Non, c'est de la merde.
En fait, la chronique de Daz, c'était une chronique anti-indé. C'est pas
bien
une chronique anti-convivialité, quoi. En fait, Daz, il aime bien, il joue à Street Fighter, il joue à Mario Kart et tout, c'est juste qu'il voulait taper sur les indés gratuitement.
Je veux un jeu où tu as le choix. Je veux pas t'es forcé à jouer sur ton canapé.
Mélissa, est-ce que tu joueras à la Switch? Est-ce que tu as vu la Switch? Est-ce que la console est son côté un peu, je la trimballe partout, mes potes peuvent la trimballer partout, on peut jouer au bureau ou machin, c'est un truc qui te botterait?
Non.
Ok. Et vous savez quoi? On mettra Mélissa sur un bon gros système de matchmaking sur un MOBA bien chiant, elle jouera toute seule chez elle et elle pleurera des larmes de sang.
Elite. Non mais oui, déjà je dois tenter Elite avant.
Ok, et bien très bien, et bien on jouera Elite seul, même quand on fera du multicrew tous ensemble,
voilà.
Chacun de notre côté.
Chacun chez soi.
On pourra pas un jour faire une soirée et se recréer un cockpit avec le commandeur derrière sur un gros canapé et un mec à droite qui sera l'armement.
Mais vous l'avez déjà fait, vous avez déjà fait une LAN Elite.
Oui, on a fait, mais là, tu vois, on va essayer de replacer même de manière spatiale.
La passerelle de l'Enterprise, tu vois.
C'est-à-dire qu'en fait, le commandeur, il sera à l'arrière, il pourra hurler sur ses potes.
Donc Daz, il va nous donner des ordres, c'est ça? Il va se régaler.
Bon, Daz, on foutra l'artillerie. Allez, on arrête le débat, on verra ce que vous en pensez, vous, en tout cas. Est-ce que vous êtes des fils de pute ou pas, selon Daz? On attaque tout de suite la deuxième FAQ. FAQ. Richard William Damien. Il s'appelle Richard William Damien sur Twitter.
On le connaît, lui.
Ah ouais.
Ouais.
C'est marrant parce que toi, t'avais une théorie sur les tueurs en série qui avaient tous des doubles prénoms. Lui, il a un triple prénom. Alors, en tout cas, Richard William Damien nous demande, devrions-nous plus profiter de notre jeunesse AFK, donc notre jeunesse loin des écrans et des ordinateurs, sachant qu'à la retraite, on risque de devenir des sorts de no life? Notamment. Est-ce que...
C'est un sujet que j'adore, ça.
Ah, alors Sylvain, tu es inspiré. Alors, est-ce qu'il faut profiter de sa jeunesse et du fait que nous sommes physiquement aptes à profiter du monde physique?
Non.
Pour se dire que quand on sera vieux... Voilà, alors ensuite, fibre.
Non, par contre, je suis très excité d'être vieux à la retraite, d'être sénile et qu'on me foute dans une maison de retraite avec un putain d'oculus sur la tête, quoi. J'ai trop envie de ça. Putain, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui les vieux dans les maisons de retraite.
Est-ce que vous avez regardé la dernière saison de Black Mirror?
Non.
Si.
Ah bah si, les vieux qui sont dans
je spoil rien, mais trop tard, ça a été spoilé, en tout cas, voilà.
Oui, mais voilà, mais moi j'ai hâte de ça. En fait, j'ai hâte de me divertir de façon complètement indécente quand je serai à la retraite. Et limite, quand tes gamins viennent te voir ou tes petits-enfants viennent te voir, dégage! Je suis en pleine partie! Tu me fais chier, tu vois.
Seul!
Sans convivialité!
De toute façon, j'ai pas de canapé, j'ai qu'un lit médicalisé!
Avec un grand-père russe!
T'as les multi-medicalized bed, ce sera le nouveau nom.
Donc, trop chaud pour être à fond la maison de la retraite, mais oui, aujourd'hui, mais non, par contre, je suis...
D'accord, donc trop chaud pour être toujours branché sur le cul toute ta life, en fait.
cette question, Daz, en fait, oublie quand même un facteur qui est super important, c'est que quand t'es jeune,
oui,
t'as pas de thunes.
Ouais.
Donc, de toute façon, profiter de la vie quand t'es jeune... Bon, de la merde.
Alors, on va dire quand tu arrives au doux croisement des deux courbes où tu gagnes ta vie, mais tu es en même temps physiquement apte à te déplacer, à faire du.
C'est le moment où tu peux justement t'acheter un HTC Vive et une machine d'enculé pour pouvoir faire tourner tout ça.
Ok, très bien. Donc Daz, t'es comme Sylvain en mode jeune ou pas jeune, de toute façon connecté toute la journée, quoi.
Voilà.
Ok, Mélissa.
Oh bah pareil, hein. Enfin, je veux dire, on sait pas.
Oh, cette équipe, on sait pas
où en sera la technologie dans 40 ans. Donc, imagine, on s'arrête maintenant pour reprendre dans 40 ans, parce qu'on va être à la retraite dans 1000 ans.
Tu seras vraiment largué comme les vieux.
Oh, on sera des vieux.
Et du coup, on sera vraiment trop largué, donc on sera.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est je débile, comprends quoi. Pas, je les mets comment les lunettes ?
C'est débile.
T'appelleras tes enfants pour dire,
je comprends pas, j'ai pas d'image.
Fibre.
Alors, moi je serai tout le temps sur Internet.
Ok. Mais donc c'est unanime.
Je dirais que aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux surtout pour des raisons professionnelles. Et j'ai hâte.
C'est vrai ? Parle-nous de tes projets, Fibre. Parle-nous de tes projets.
Non, non. Et j'ai hâte à un moment de dire, m'en foutre, tu vois. Dire. Ouais. Je sais pas si vous voyez les vieux dans la rue, ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent, oh, il est moche celui-là, tu vois. Et on pourrait lui dire, il est vieux, tu vois. Et ben moi, je ferais pareil sur Twitter. Quand je serais vieux, j'insulterai tout le monde, tu vois. Et j'irais, ah, oh, putain, je suis bien là, tu vois. Voilà.
Et donc là, là, t'es jeune et tu peux rien faire.
Bah, je me retiens un peu.
Bon, bah voilà, écoute, tu as ta réponse, Richard Willem Damien. Ça ne sert à rien d'être AFK pendant que t'es jeune. Hein, vraiment, ça ne sert à rien. Donc plonge-toi dedans et ne perds pas de temps à faire des choses physiques de ta vie. Allez, on passe tout de suite à la troisième chronique et c'est Mélissa qui va nous parler de Quantified Self.
Sujet numéro 3.
J'ai enfin trouvé le jeu vidéo qui me plaît. Ma vie.
Et ben voilà, c'était le running gag de l'émission Mélissa ouais. Et les jeux vidéo. On y est.
J'ai trouvé.
Aha.
Aha. Voilà, je vous explique la genèse hein, parce que c'est comme c'est compliqué chez moi. Tout a commencé quand j'ai vu le budget mensuel de Uber de ma meilleure amie. 20%. Je l'ai vu sur un petit camembert coloré qu'elle avait sur l'appli de sa banque. Et alors ce petit camembert coloré, il était pas en pixel art, m'a beaucoup plu. Et vous savez comme j'aime ranger mon internet, et là je me suis dit avec ce camembert je vais pouvoir ranger ma vie.
Mais dis ça qui y croit encore.
Elle pense
encore
46e émission, j'y suis toujours. Mon appli banque ne fait pas de camembert. Je la paye très cher, mais elle a pas ça. Mais heureusement, il y a toujours un petit start-upper qui a eu une bonne idée. Donc, j'ai téléchargé Bankin, le pays des merveilles du camembert coloré. Et voilà le début du décompte de ma vie. Bienvenue dans ma vie quantifiée. Une déconstruction de mes dépenses, hein, donc de ma vie, qui s'est affichée sous mes yeux. 31% de loisirs est sorti. 28% de restaurants. 11% d'impôts, 10% de shopping, 7% de transport et 1% pour la banque parce qu'en plus elle me coûte très cher.
Mélissa ne paye pas de loyer donc.
ouais, si, en fait, si. Je sais pas dans quoi
son
il est rentré.
Son camembert, il est nickel, Mélissa.
donc nous sommes le 19 février, j'ai dépensé 76% de mon budget selon l'appli.
En fait, on a dépensé 111.
Et selon ce budget, je vais finir à moins 600 euros. Donc voilà. Voilà. Mon jeu vidéo, c'est d'arriver à zéro à la fin du mois. Je suis mal barrée pour l'instant. Ah, je me sens très mauvaise. Mais à quoi bon se quantifier ? C'est un peu ça que je me suis posé quand même en regardant ce joli camembert coloré qui était très très joli. Mais à quoi allait-il me servir ? Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à me peser sur la balance connectée de mon mec.
Là, c'est le début de la fin, tu sais.
Ouais, je sais. Mais en fait, j'ai compris que tu pouvais avoir deux comptes séparés.
Ah.
Tu vois ? Il n'y a pas croisement des courbes. Et en 10 jours d'utilisation, je me suis posée presque tous les matins, tous les soirs et tout. Et j'ai commencé à voir que en fait, je pouvais perdre 1 kilo entre le soir et le matin. Donc, j'ai beaucoup aimé ce jeu.
Tu dois chier des trucs monstrueux. Quoi.
As-tu vraiment envie de savoir ? Non.
Mais comment tu perds 1 kilo ? 1 kilo.
C'était 800 grammes en vrai. Enfin bref, on s'en
c'est
fout.
Le
quoi. C'est la post-vérité, voilà. Voyons. Et donc, en fait, je suis allée sur l'appli de la balance connectée qui s'appelle WeThings, qui me permet de consulter à la fois mon poids, ma masse graisseuse, mon pouls, et je l'ai connecté à l'appli Santé d'Apple qui m'a permis de compter mon nombre de pas que j'avais fixé à 10 000 par jour. C'est comme ça que j'ai eu le badge marathon. J'avais déjà fait 42 km et je suis à quelques mètres d'obtenir le badge Loch Ness. Sachez-le, c'est hyper important.
Donc là, t'es à fond dans le quantifier.
Je suis à fond, je suis quantifié. Je suis hyper quantifié par de multiples applications. Et en fait, cette part de moi a beaucoup aimé ce que j'ai cru être un jeu vidéo parce que, en fait, quand je jouais à Street Fighter, donc, le seul jeu vidéo avec Mario Kart auquel j'ai joué, je détestais mourir. Or là, c'est un peu la preuve que je vis. Tous ces petits chiffres.
Bah oui.
Mais, j'ai quand même réécouté la chronique de Sylvain qui en parlait déjà en 2013, hein, parce que bien sûr, Sylvain est toujours en avance sur nous tous. Et voilà ce qu'il disait à propos de tous ces chiffres.
Et on entre dans une ère de dictature des statistiques. On devient tous ce qu'on appelle des quantified self, donc des gens qui mesurent toute leur vie pour essayer de l'améliorer, pour essayer de trouver des failles, etc. Et ça va finir par nous rendre complètement dingues, parce que les coachs, c'est insupportable, mais quand en plus on est nous-mêmes le coach de notre propre vie, il y a de quoi se tirer une balle, je pense.
Je reconnais la voix des gueules de bois, des dimanches gueules de bois.
Je me suis pas tiré une balle, hein, j'ai continué à me quantifier. Parce qu'en fait, les applis sont beaucoup plus belles qu'en 2013, donc le gameplay m'a beaucoup plu. Par exemple, Runkeeper, que Sylvain critiquait à l'époque, ne vous crie plus dessus en anglais quand vous atteignez des objectifs. Et même l'appli de EDF, qui mesure votre électricité, se veut du quantified self et genre vous dit combien vous dépensez par mois, enfin combien vous consommez par mois. Ça m'a encore beaucoup plu. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de penser au bout d'un moment. C'est-à-dire que je savais tous ces chiffres sur toute ma vie,
Et en fait, je me suis dit, mais à quoi ça te sert? Parce qu'avant, en fait, j'avais pas de balance. Je me pesais, enfin, je savais mon poids en fonction de est-ce que je rentrais dans mes vêtements ou pas, enfin, ouais. certains vêtements. Et en fait, le Quantified Self, aujourd'hui, il est partout. C'est-à-dire que chaque année sur Spotify, vous avez votre bilan de nombre de titres écoutés, de chaque catégorie de musique que vous avez sur Netflix. Vous savez ce que vous avez vu, ce que vous allez pouvoir voir parce qu'il vous suggère le truc. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis pas encore plus dans ma bulle? Est-ce que avoir tous ces chiffres, ça m'enferme pas dans mon fonctionnement et juste regarder des jolis camemberts, c'est super. En fait, c'est censé faciliter notre vie, mais en fait, à défaut d'analyse, et parce que ces boîtes ont des intérêts commerciaux, en fait, à avoir toutes ces données, on est mesuré, mais on sait pas à quoi bon, quoi. On a juste l'impression d'avoir la maîtrise de notre vie et d'être intelligent parce qu'on voit des chiffres. Et en fait, ce petit twist de gamification, ça nous sert pas vraiment. Nous sommes, en fait, on est tous des petits camemberts colorés. On en a conscience et on se dit, mais est-ce que, par exemple, j'ai dépensé moins parce que j'ai vu le camembert coloré qui commençait à bouger là? Bah non. Est-ce que j'ai commencé à maigrir parce que je savais comment varier ma masse graisseuse? Absolument pas. Et donc, en fait, à la fin, je me suis dit, t'as trop de données et tu peux pas les analyser, t'as pas les outils pour les analyser, les applis sont pas faites pour ça. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on n'inventerait pas le qualified self?
Le qualified self.
Le qualified self, si
oh
vous préférez.
Oh là là, quantité qualité, on va loin dans le naming, Mélissa voilà. Benoît.
Ça s'appelle qualité, hein, c'est pas pour rien. Je suis fidèle au nom de notre entreprise. Et en fait, un jeu qui nous permettrait d'intellectualiser notre rapport au monde et qui nous permettrait de prendre en compte, en fait, à la fois notre instinct.
Ouais.
Ce qui est la façon dont on a toujours fonctionné et les données de base de notre vie, donc ce que j'ai mesuré pendant les 10 derniers jours. Et en fait, comment on jouerait à ça? Avec un petit casque connecté à nos neurones.
Oula.
Elle a fait ça pour séduire Daz et Fibre.
Qui permettrait en fait de.
Plus Sylvain, ça.
D'analyser les failles dans notre cerveau.
Ouais.
Et de stimuler, en fait, de nous proposer des activités qui stimulent les parties qui sont plus faibles. Par exemple, moi, j'ai une mémoire visuelle très bonne,
ouais.
mais je suis nulle pour retenir du texte. Alors, je vous propose pas le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima, là, que Nicole Kidman nous vendait sur Nintendo DS. Non, ce sera vraiment un casque qui vraiment analyse les parties les plus faibles de votre cerveau et vous dit, vous devez travailler ça et vous ouvre, en fait, une appli en vous disant, voilà, vous devez lire ce livre, vous devez répéter ça, vous devez avoir une appli d'apprentissage des langues. Et on l'appellerait donc Qualified Self, forcément.
Qualified Self. Tu vas complètement
cinglé, ma pauvre.
Mais non, là, je me suis rendu compte que là, je m'amuserais parce qu'en fait, je serais pas juste en train de lire des chiffres et me dire, ouais, machin, et stressé parce que j'ai pris 0,1% de masse graisseuse, tu vois, ce qui est à peu près le truc que fait la balance connectée pour le moment. Et je serais pas en train de me rentrer dans des espèces de challenges, tu vois, 30 jours pour me dire, faut que je perde des trucs. Enfin, tu vois, toutes ces applis, c'est que des challenges et des trucs qui te disent, genre, fais mieux, et à la fin, t'es complètement stressé et t'as pas vraiment progressé dans ta vie, quoi. Donc en fait, ça me ferait vraiment me dépasser et je me dis que mon petit camembert s'en porterait mieux et que j'aurais plus besoin de le regarder frénétiquement. Ma vie serait réellement augmentée, cher Daz.
Alors, Mélissa nous dit, en fait, si on résume, il faudrait intellectualiser et éditorialiser toutes les données de soi qu'on a aujourd'hui.
Donc, c'est ça. Parce que là, on en a beaucoup trop, sauf qu'il n'y a aucune analyse qui est faite.
En fait, t'en as aucune.
Si.
Mais non.
T'as tout.
T'as
beaucoup de choses. T'as ton nombre de pas, ta distance.
Ça, c'est sur la santé. Ça, c'est sur la santé. Mais par exemple.
Tes dépenses.
Tu vois, quand tu utilises Netflix, à aucun moment, Netflix va te dire, au fait, tu regardes 28% de comédies, 32% de films américains.
En fait, il te dit pas directement, mais dans toutes les suggestions.
Oui, mais voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, il te donne accès à ton profil, comme ce que Spotify fait, je crois, une fois par an.
Oui.
Où ils te disent, voilà, sur cette année, voilà ce que toi, tu as fait.
Mais ça
te donne la donnée, en fait.
Mais voilà, la question de Mélissa, c'est qu'en fait, on rebondit un petit peu sur Sylvain nous sert un peu de early access et de bêta test sur cette tendance il y a 4 ans et Mélissa c'est le SAV pour dire bon bah moi j'ai testé quand c'était vraiment là et voilà ce que j'en pense, mais t'as des données, effectivement t'as plein de données,
tu ne peux pas les analyser, quoi,
qui sont un peu brutes, ce sont des camemberts. Est-ce même comme dans si une époque joli. Du camembert et du big data, est-ce qu'à un moment il y a quelque chose qui devrait être de l'ordre de la suggestion vraiment plus profonde?
Bah faudrait qu'en fait il y ait des espèces de data analystes derrière chaque appli qui te fasse en fait l'analyse de ce que t'as, parce que vraiment en fonction de 1000 critères, tu peux pas toi tirer ton analyse.
Mais tu veux tirer quoi exactement comme
moi je veux vraiment trouver l'appli qui me fera que j'aurai une meilleure mémoire textuelle, tu vois.
Ouais.
Ça serait bien.
Tu sais, dans les Cogip on appelle ça des outils d'aide à la décision. Ouais. Tu sais, les data, quand on te sort un petit reporting des data, des performances machin, c'est un outil de décision. Tu montes les beaux camemberts à ton PDG et ton PDG il fait mais écoutez Berthier, c'est bien joli tous ces chiffres, mais bon, c'est quoi le résumé? Qu'est-ce que je dois en tirer de tout ça? Et c'est ça qui nous manque, en fait. C'est qu'est-ce qu'on en tire de tout ça, quoi.
Mais non, mais là c'est parce que Mélissa, en fait, dans son expérience à elle mélange un milliard de trucs. Tu vois, quand tu prends un outil de BI dans une Cogip, Tu mélanges pas des torchons et des serviettes, tu t'additionnes pas des carottes et des salades, tu vois.
Oui, mais le marché des applis de Quantified Self aujourd'hui est celui-là. C'est-à-dire que t'as 1000 data.
Bah, il est éclaté, bien
aucune
sûr.
Aucune analyse.
Non, mais surtout, il est éclaté, puis il est encore un peu brut.
Non, mais alors, toi, tu voudrais que l'appli, elle te dise, bon, Mélissa, tu fais 38% de tes dépenses en sortie à la con dans des bars.
Ouais.
Et en même temps, je vois que ta masse graisseuse augmente. Donc, mon conseil, ça serait d'arrêter de prendre des bières.
L'appli, elle voit que j'ai un livret A, ce qui est débile en termes d'investissement, ça te rapporte que dalle.
Ouais.
Et à mon avis, ça peut, tu vois, te suggérer de
au lieu de te dire bêtement mieux. Combien ça te rapporte par an, elle pourrait te suggérer des choses. Fibre.
Si je peux me permettre.
Mais tu peux te permettre, Philippe.
Une application qui permet de tracer tes flux financiers. Ça existe, ça s'appelle la comptabilité. Et je fais la comptabilité de qualité, rappelez-vous.
C'est pas une appli, c'est un humain.
Et là où ça devient intéressant, c'est que tu peux pas hacker la comptabilité, mais presque. C'est-à-dire que, à un moment, t'as tous ces chiffres en comptabilité, quand tu connais la comptabilité, et tu dis, qu'est-ce que je vais en faire? C'est pour ça que je vous dis, il faudrait qu'on dépense tant avant telle date, n'est-ce pas? N'oubliez pas. Donc, voilà. Parce qu'à un moment, vient le bilan, parce qu'aujourd'hui, on est en bilan, bonjour aux experts comptables qui nous écoutent. Et en ce moment, on est en train de se dire comment payer le moins d'impôts possible. Tu vois, tu payes 11% d'impôts, c'est pas beaucoup, c'est très bien. Et, je veux dire, l'idée générale, c'est de dire, ça existe déjà. Et effectivement, il y a même des gens qui vivent dessus. Mais il faudrait peut-être une comptabilité effectivement de d'autres secteurs. Mais par exemple pour le running ou pour les exercices physiques, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut pas dire ah j'ai fait 11 kilomètres, mais plutôt tu devrais faire 11 kilomètres.
Oui, mais c'est ça que Mélissa défend en fait. Mélissa défend le fait qu'elle a testé le Quantified Self, que toute sa vie elle est décrite et reportée, mais que il y a pas de direction réelle à part un constat.
Mais ça, je suis désolé, mais le Freeletics que tous les hipsters de Paris faisaient, c'était ça. C'est-à-dire tu vas faire 30 pompes ou je sais pas quoi, et t'en fais 35 le lendemain. Donc
oui, mais c'est le seul truc. C'est ce que Mélissa disait. C'est le seul truc qui disait fais mieux qu'avant. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de finesse dans tous les datas qu'elle tire d'elle-même de ce fameux Quantified Self, de toute la gamification. La gamification, elle est assez bête. Elle est genre fait mieux qu'avant, mais en fait, on pourrait aller plus loin. On pourrait parler de Qualified Self au sens où ça t'aide à te rendre meilleur.
Le but,
meilleur.
C'est d'avoir des badges et de faire des challenges.
Faut toujours avoir des badges, par contre.
Tu vois.
Ouais, le badge, c'est important.
C'est le jeu. Tu te regardes dans un miroir et tu dis, ça m'apporte rien. C'est vrai que c'est juste un miroir.
Mais justement,
Mais
tu vas dans le sens de Mélissa, mais ça voudrait aller sur autre chose. Elle voudrait que mon beau miroir lui donne des conseils, par exemple.
La proposition que Das faisait de tu as dépensé tant d'argent dans un bar et j'ai vu que ta masse graisseuse a augmenté, donc tu devrais boire moins d'alcool et moins sortir. Moi, c'est ça que je trouve intéressant.
Ouais.
La proposition, elle est cool, là.
Ouais.
C'est un calque qui se met par-dessus toutes les data et qui leur donne du sens, en fait.
Voilà, exactement. Il y a un manque de sens aujourd'hui, on est d'accord. Le big data, il est là, mais il y a le sens qu'il te donne, il est assez limité. Ouais, il a fait, oui, vous avez fait 10 000 pas parce que vous voulez faire 10 000 pas. Chouette.
Non, mais par exemple, tu prends ton appli de banque. Bon. Moi, j'ai une appli aussi avec ma banque. Quand je commence.
Est-ce que tu rêves d'une banque, des fois, quoi?
Je rêve d'une banque qui envoie des comics à New York pour repartir de zéro. Comme Rocky. Moi, l'appli de ma banque, je l'ouvre quand je sais que c'est la merde. Et là, je me mets, tu vois, quand je sais que je suis vraiment dans le rouge vif écarlate, je me mets vraiment à taguer toutes les dépenses pour savoir ce qui se passe, machin, etc. Mais quand tout va bien, tu l'ouvres jamais ton appli de banque, en fait.
Si, moi, j'adore, ça me rassurait vachement.
C'est vrai?
Parce qu'au début, j'ai vraiment aimé l'expérience où je me dis, ah, là, je suis bien et tout, c'est super.
Alors, du coup, repartons juste rapidement de la base. Qui se monitore ici? Beaucoup.
Pas beaucoup.
Genre.
Beaucoup, ça veut dire quoi?
Moi, je me
chaque jour.
Par exemple, toi, t'as tes fameux petits camemberts, mais tu sais comment tu gères tes dépenses, tu te pèses avec une balance connectée, tu dois peut-être gérer, je sais pas, tes activités sportives ou d'autres choses.
Fibre. Runkeeper.
Je note mes orgasmes. Sur 6.
Fibre, ça va toujours dans l'excès.
Non, mais est-ce vrai?
Pourquoi sur 6 en plus?
Est-ce qu'il n'essaye pas de faire une Donald Trump là?
C'est une question de pondération.
Ouais.
Tu sais, un bon repas, c'est noté sur 10 et un orgasme sur 6, parce que dans la pondération, quand tu fais ta moyenne, tu vois, ça, tu donnes pas le même poids à de la bonne bouffe et au bon sexe, quoi.
Je vais même vous dire que j'avais mon fameux emploi du temps.
Top, Fibre. Réponds la question. Pourquoi sur 6? Le peuple doit savoir déjà.
Franchement, parce que c'est très facile. J'ai trouvé que c'était très facile de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au-delà, c'était.
Qu'est-ce que c'est que cette raison absurde?
En fait, Fibre, pas fait une typologie.
Fibre, c'est comme tes applications. Il a plein de data, mais on sait pas encore dans quel sens
il faut les mettre. Un orgasme à 5, je sais exactement ce que c'est. À 6, je sais exactement ce que c'est. À 4 aussi, mais à 7, non, tu vois. C'est genre, je peux faire un produit en croix pour si vous voulez la note sur 10, mais bon. Mais cela étant, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai mon fameux emploi du temps que j'ai donné, j'ai rendu public cette année.
Me dis pas que tu vas rendre public tes logs d'orgasme.
Alors presque, parce que chaque jour, maintenant, je tiens un petit petit journal intime de ce qui s'est passé dans ma journée, de mon moral, tout ça. Et parce que j'ai la certitude, parce que j'ai des baisses de morale. Et j'ai la certitude que ça suit une courbe cosinus.
Ouais.
Voilà, au fil du temps. Et je veux prouver ça. Donc je note tous les jours tout ce que je fais, mais pour voir
ça. C'est ça qui est bien avec Chico, c'est qu'il fait l'inverse. C'est-à-dire, il n'attend pas les data. Ouais. Tu vois, il a son idée de l'analyse de data et il
peut matcher les data. 20 février 2007, 22h. J'ai joui. Bon, ensuite, entrée. Ça, c'est le. J'ai joui. 5 sur 6.
Ensuite, la compatibilité. La compatibilité de qualité. Alors.
Non, mais ça franchement,
c'est du monitoring.
Parfois, vous vous sentez très triste. Et moi, je voulais savoir si c'est juste parce que je suis au bas de ma forme, de mon cycle.
Oui.
J'ai des règles d'homme, on va dire, en quelque sorte. Ou est-ce que il y a des vraies réponses, des vraies circonstances qui font que je suis triste? Ou est-ce que je suis con? Et voilà. Et est-ce que j'aurai la réponse?
Est-ce que t'es parfois irritable, facilement irritable? Je te pose la question, je te la pose sérieusement.
Non, mais parfois, je suis irritable. Je note tout ça. Et j'espère que j'aurai la réponse à la fin de l'année.
Mais du coup, la réponse, c'est ce que Mélissa voudrait faire. Ce sont des applications qui comprennent ces data que tu rentres.
Non, mais la réponse,
et qui te disent,
là.
Écoute, Fibre, le dimanche soir, c'est vraiment irritable. En fait, peut-être que le dimanche soir, c'est la dépression du dimanche soir.
Mais la réponse, là, c'est qu'il est complètement cintré. C'est tout, il n'y a pas à chercher.
Non, et les bruits de décoffrage, c'est pas possible. Non, mais
c'est intéressant parce que c'est effectivement exactement le même problème que Mélissa. C'est mettre plein de données et les mettre en regard pour essayer de trouver un sens à pourquoi je suis comme ça, pourquoi il se passe ça.
Mais non, mais je vais même vous dire aujourd'hui, quand je suis triste, je préviens mes proches et je dis, vous inquiétez pas, dans 2 jours, tout va bien.
Voilà. D'accord.
Et effectivement, deux jours plus tard, je pète la forme, tu vois, et c'est comme ça.
Mais est-ce que du coup, tu aimerais une application qui te comprend, en fait, enfin, qui te comprend par rapport à tous les renseignements qu'elle reçoit de toi? Donc là, Mélissa a été très loin parce qu'elle parle d'une application qui serait connectée vraiment à toi d'un point de vue cervélique, hein, parce que je trouve pas les mots.
Cervélique, ouais.
Cérébral. Et il est tard.
Cérébral, ouais. Cervélique.
Mais aujourd'hui,
on parle de Qualified Self. Moi,
aujourd'hui, l'application santé de Apple, elle te demande même elle te pose des questions sur ta vie sexuelle, par exemple.
Non.
Si. Il y a des trucs hyper pointus sur l'appli santé, c'est très flippant.
J'ai une vision de Johnny Ive, la voix de Johnny Ive, c'est Do you like sex? Is it unapologetic sex?
Si, il y a tout, hein. Mensuration, menstruation, tout ce que tu veux.
Voilà, et this donc, is the best sex we've ever made.
Non, mais je trouve ça
aluminium.
Et pour la suivi des menstruations, il y a Clou. Ouais. Et il y a plein de paramètres, et je trouve ça très bien, ça permet d'anticiper plein de choses.
D'accord. Donc
bah, anticiper si tu veux l'analyser encore une fois.
Est-ce que t'es d'accord avec Mélissa sur le fait qu'on est quand même sur un terreau, il y a un terreau de contenu et qu'on peut on peut trouver des choses assez incroyables à faire avec pour atteindre l'âge du qualified self.
Cet âge, il va arriver, mais comme un train à 300 à l'heure, parce que ces data vont aller dans des IA certainement.
D'accord.
Et on n'aura pas le temps de s'auto-analyser, c'est-à-dire qu'elles vont nous dire, elles vont anticiper nous-mêmes des choses, je pense.
D'accord.
Elles vont nous envoyer des pubs quand on sera au plus faible, tu vois, pour acheter des choses pour aller mieux.
Tu l'examines.
Et dernière question, Mélissa parle un moment dans sa chronique du fait que on ne s'écoute plus, et ce côté instinct qu'on avait, le savoir de soi qu'on avait est un peu dévalorisé comme le savoir aujourd'hui en général. Il est déporté parce que le savoir aujourd'hui c'est internet où c'est plein de choses, et donc c'est moins important de savoir des choses. Est-ce que vous pensez que demain, c'est l'instant un peu vieux con, est-ce que vous pensez que ce sera moins important de se connaître, puisque quelque chose nous connaîtra mieux que nous, un logiciel ou un appareil nous permettra de mieux nous connaître, mais ce sera pas grâce à nous, ce sera par rapport à quelque chose d'exo-cervélique.
Wow.
Cervélique, EK à la fin, pour faire un peu barbarisme.
Tectonique. Ouais. Moi, je pense que oui, et je pense que c'est très bien.
D'accord. Voilà.
Si on doit retourner un petit peu vers le passé, la personne qui nous connaissait le mieux, on va dire, c'était notre psy.
Ouais.
Je dirais juste que dans le futur.
C'est... Là, tu pars du principe que tout le monde va chez le psy, ce qui n'est pas normalement.
Si, à Paris, tout le monde va chez le psy, d'un enfant.
Ah, bah oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'en France, tout le monde va chez le psy.
C'est le seul moyen que de t'allonger sur un canapé.
Dans un canapé.
Tu vas faire du multicatch chez ton psy.
Et donc, dans le futur, le psy, ce sera juste un robot.
Très bien. Ok. Donc, tu es plutôt d'accord avec ça?
Oui.
D'accord. Daz, est-ce que toi, tu penses qu'à un moment, cette sorte d'instinct de connaissance de soi, on peut la déporter sur un appareil comme on a déporté le savoir et que c'est pas grave? Et que c'est mieux.
Encore une fois, ça t'adresse deux aspects. Enfin, pour moi, il y a quand même deux aspects. Il y a ta psyché, il y a ton ce que vraiment tu penses, tu es, et après ce que tu consommes. Et je suis d'accord avec toi pour dire que la partie consommation, effectivement, sera complètement déportée et que il y a une appli qui nous connaîtra mieux que nous-mêmes.
Ouais.
Après, pour le reste, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que ça veut dire que à terme, tu vires ton libre arbitre, en fait, puisque tu suis les injonctions d'une machine.
Ouais.
Donc ça sert plus à rien de penser par toi-même.
Oui, mais si cette machine, elle est meilleure pour toi que tu ne l'es.
Oui, mais ça sera. Enfin, tu sais que c'est faux, puisque on vit quand même dans un monde où c'est le commerce qui régit les choses, et à un moment donné, cette machine, elle va te dire de voter Trump parce que c'est bien.
C'est tu paradoxal vois que tu veuilles performer à Street Fighter, mais tu veuilles pas avoir analysé tout ce qu'il y a autour de toi pour avoir des orgasmes à 6 sur 6, tu vois.
Bah déjà, noter ses orgasmes, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu triste, mais pourquoi pas, enfin.
Mais ce sera bien, parce que avant, tu feras l'amour avec ta femme, et puis tu vois, ton implant qui dira 5-5. Mais tu sais, il le chuchotera à l'oreille, tu feras, ah, putain, c'est vrai, 5-5, c'était énorme.
C'était énorme. Je sais pas, je préfère.
Et tu seras heureux parce qu'il t'aura suggéré que c'était 5-5.
Je préfère garder le truc, tu vois, un petit peu mystérieux, et pas forcément mettre de notes ou de noms sur des notions, sur des trucs comme ça. Je préfère que ça reste.
Mais ça, on analogique. On demandera à nos auditeurs ce qu'ils pensent du Qualified Self.
Ouais.
En tout cas, on est impatient d'avoir vos retours là-dessus. Laisserez-vous des machines vous suggérer la qualité de vos orgasmes? Allez, en attendant, on passe tout de suite à la troisième FAQ.
FAQ.
La troisième FAQ, en soi, ne raconte pas grand-chose, mais elle me tient beaucoup à cœur et vous allez comprendre pourquoi. C'est Clara Griot qui nous demande à quand un épisode en binaural pour plus de sensualité à l'écoute. Alors là-dessus, pour une fois, je vais passer le micro. Alors moi, je suis un fan de binaural, mais je vais passer le micro à Justin qui d'abord va nous expliquer ce que c'est que le binaural. Tiens, je te passe mon micro.
Alors le binaural, c'est une technique de prise de son qui consiste en fait à reproduire ce que nos oreilles captent. C'est-à-dire qu'en fait, assez simplement, on met des petits microphones à l'intérieur des oreilles et ensuite, il y a une sorte de traitement qui est appliqué sur cette prise de son. Et ça reproduit ce qu'on entend dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, l'âme est en face de moi. Les quatre chroniqueurs sont autour de moi. Donc, je les entendrai exactement comme ils sont positionnés maintenant. C'est-à-dire en face et sur les côtés. Voilà. Je te rends le micro.
Vous avez vu ça? Du coup,
donc, c'est de la stéréo, quoi.
Bientôt, on fera des 404
C'est de la spatialisation.
Non, c'est, la stéréo, c'est gauche-droite.
Ouais.
Là, le binaural, c'est vraiment la spatialisation totale.
360.
Ouais. Au casque. Ça ne marche qu'au casque, par contre. Ouais. Mais ça veut dire qu'un auditeur pourrait vraiment sentir qu'il est entouré des chroniqueurs. Imaginez qu'on couple ça avec un petit casque de réalité virtuelle. Le malaise est total.
Et on pourrait lui chuchoter 5 sur 5 à l'oreille.
En ASMR. Non, mais le binaural, c'est une bonne idée.
Moi, ça m'excite à mort.
C'est une bonne idée, mais ça part du principe que tout le monde écoute dans les conditions que tu as imaginées pour eux. Ce qui est totalement faux. Puisque moi, j'ai tendance à croire que les gens, effectivement, nous écoutent dans des salons bourgeois avec un casque Sennheiser à 6000 balles et un gros cigare.
À Paris, tout le monde écoute en binaural.
Ouais, c'est vrai. Sur un canapé de place.
Sur un canapé de place.
Enfin, non, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que si tu le fais réellement et que, par exemple, il y a des mecs qui écoutent ça avec des écouteurs flingués où il y a une oreillette qui marche pas, ils entendent plus Fibre Tigre. Alors, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Je vous laisse seul juge.
C'est gratuit. Non, mais on devrait avoir une version simple et une version premium DLC payante.
Voilà, okay.
Pour les Patreons en binaural. Fibre, Sylvain, est-ce que vous aimeriez vous écouter une émission où vous sentez que vous êtes vraiment littéralement au milieu de l'émission?
Moi, je sais de sources sûres qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui seraient très intéressés d'avoir la voix de l'âme en binaural.
Wow.
Et pas fake news, j'ai une source
en trinaural.
Fibre.
Je pense que c'est pas tout à fait adapté pour le podcast sur 404.
Ouais.
Mais je crois savoir que Qualité va peut-être lancer un département fiction.
Et là.
C'est bien parce qu'en fait, Fibre nous annonce le lancement du département fiction sous couvert d'une rumeur. T'es en train de hacker l'attention là.
Non, mais peut-être. Exactement. Mais oui. Dans ce cas-là, je trouve que ce serait très cool.
Voilà. D'accord. Pour l'immersion.
J'ouvre une petite parenthèse. Il y a toute une. Non, mais on aimerait faire des jeux vidéo en binaural.
Attends, à 404 ou dans ta boîte?
Dans l'absolu. Le monde du jeu vidéo, on va faire des jeux vidéo où t'es allongé sur ton lit, juste avec un bon casque, dans le noir, et tu vis une aventure en binaural. Alors, il y a déjà ça qui était à moitié produit par Radio France, ça s'appelle Blind Legend.
Ouais.
Mais voilà, imaginez un futur Half-Life.
Un Resident Evil voilà, en binaural. Voilà. Mélissa, est-ce que tu aimerais être plongé au milieu des gens ou est-ce que c'est
non,
too
j'adorerais,
much?
J'adorerais. Ouais, t'adorerais. J'adorerais voir l'effet.
Bon, et ben c'est bien parce que ça, bon, juste le casque binaural de base sur Thomann.2 il coûte 5 000 €. Hein. Donc voilà, cher Patreon, on vous dit rien, mais on vous dit tout. Hein. On essaie de vous le suggérer dans l'oreille, mais bon voilà, ça coûte 5 000 € d'acheter un vrai micro binaural qui donnerait en tout cas cette sensation. En tout cas, on aimerait bien. Donc on est unanime pour une émission et plus d'émissions en qualité binaurale. Et un jour, on tentera de faire une émission d'enfoiré où on changera de position à chaque fois pour que vous soyez complètement paumé. Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique et c'est Sylvain qui va nous parler de mauvaise éducation.
Sujet numéro 4.
L'éducation, ce mauvais élève du numérique.
Bonjour professeur Sylvain.
Bonjour.
J'ai établi une sorte de loi, c'est un petit peu sur le modèle du point Godwin, ça s'appelle la loi Palais.
En toute simplicité.
Tout simplement. Tout simplement. Plus une discussion à propos de l'actualité dure longtemps, et plus elle est alcoolisée, bien sûr, plus elle a de chance de déboucher sur un des deux sujets suivants. La remise en question du modèle capitaliste et de son économie des excès et de la compétition, ou la réforme de l'éducation nationale. Et ouais, j'ai des discussions chiantes le samedi soir. Bon, je suis pas économiste, par contre je suis fils de prof, et j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui font le plus beau métier du monde, comme disait Depardieu en 1996. Chaque mois dans Studio 404, on observe et on commente comment le numérique change nos vies. Et il la change énormément, puisqu'on en est à la 46e émission, et que pour la première fois on a fait un sujet redondant sur le quantified self. Donc on a fait beaucoup d'émissions. Pourtant c'est avec beaucoup de tristesse que je vais vous l'annoncer, mais il y a un domaine qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est l'école. Et oui, mais je vois venir les technocrates du ministère de l'éducation. Mais monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est scandaleux. La France est pionnière en matière d'innovation dans l'e-éducation.
L'e-éducation.
C'est un vrai terme qu'ils utilisent.
Oh là là.
Et c'est vrai qu'il existe une initiative qui s'appelle École Numérique, l'école numérique, avec un hashtag et tout. Et même un super site qui répertorie toutes les avancées. Alors, il y a beaucoup de plateformes et de portails. Ils aiment bien ça, les plateformes et les portails. Il y a une plateforme média pour lire l'actuelle école qui s'appelle Lire l'actuelle école. Un portail de ressources numériques. Il y a une plateforme qui s'appelle e-parents. Il y a une plateforme qui s'appelle le PAN, la plateforme d'assistance numérique, etc., etc. Il y a plein de choses.
Appelle le PAN.
J'ai un souci avec mon ordinateur. Appelle le PAN. Mais ce dont l'école numérique est le plus fière, c'est sa tablette. Et je suis tombé sur une vidéo de Catherine Raclot-Marchois, qui est principale du collège Jean Villard à Chalon-sur-Saône. Et la meuf, on dirait qu'elle fait un TED Talk quand elle parle de son expérimentation. Clairement, elle s'est fait bouffer par l'esprit start-up. Tu sens qu'elle est à deux doigts de faire un post sur Medium. Son histoire est plutôt cool. Elle débarque dans une ZEP bien vénère et elle va construire une tablette et ses contenus avec une entreprise du coin. Et à la fin, elle sauve ses élèves et le monde. Elle parle de collaboration, de co-construction, elle raconte comment tout le monde a formé une team, genre il y avait plus d'hierarchie et tout. On dirait moi quand j'essaye de vendre une formation design thinking à une boîte du CAC 40. Alors, il y a une punchline très intéressante à la fin de cette vidéo que j'aime beaucoup.
Mission accomplie. Les clics, on fait le déclic au collège Jean Villard.
Oh putain.
Ce qui est possible dans mon établissement est possible partout ailleurs. Merci beaucoup. Merci, je vais reprendre le micro. Tu veux reprendre le micro ?
Mais putain, rends le micro, Catherine.
École française de la punchline, qu'est-ce qu'il y a ?
T'as vu ça ? Incroyable, je viens de perdre ma chronique, je suis en train de faire une daze. C'est bon. Donc c'est plein d'initiatives comme ça. Il y a le prof de maths de Noisy qui ramène un drone dans sa classe. Il y a les deux instits qui foutent des Samsung VR sur la tête de leurs élèves. Il y a cette prof d'anglais qui anime sa classe sur un groupe Facebook en dehors des heures de cours, etc. C'est génial. Et on se rend compte que tous ces super projets qui changent l'école un petit peu, eh ben ils viennent des profs qui prennent sur leur temps libre de tenter de réinventer un petit peu l'éducation avec le numérique. Alors, il y a quand même un plan national de l'éducation nationale qui s'appelle le plan numérique, qui va équiper les collèges en tablettes. Mais fin 2016, c'est seulement 200 000 collégiens sur 3 millions qui sont équipés, ce qui fait 7% selon mes calculs. J'ai fait un produit en croix, c'est Fibre qui me l'a appris. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein. Aux dernières nouvelles, un cartable de CM1, ça pèse encore 8,5 kilos en moyenne.
C'est fou.
Et oui. Non, c'est vrai. Derrière toutes ces belles histoires, il y a quand même un truc qui me dérange. J'ai le sentiment qu'il suffit pas de filer des tablettes à des gosses et de former des profs à les utiliser pour faire rentrer l'école dans l'ère du numérique ou le numérique dans l'école, comme vous préférez. Et les profs, ils expliquent également qu'une des conséquences de ces initiatives, c'est un changement de posture par rapport à l'élève. On en avait déjà parlé, mais le numérique, c'est pas juste un device et de l'interaction, c'est aussi un rapport à la connaissance et au savoir qui a changé. La figure du professeur tout sachant, elle a disparu. Aujourd'hui, celui qui sait tout, c'est Wikipédia ou Google. Le professeur n'est plus celui qui délivre les savoirs, donc il doit être autre chose. On doit trouver une autre fonction au professeur. Pour moi, c'est la manière dont on apprend qui doit changer, pas seulement les moyens. En réalité, si on veut être précis, avant de repenser l'éducation, le numérique doit nous faire repenser la pédagogie. La pédagogie, c'est la science de la transmission des connaissances. Et c'est là où l'éducation nationale doit se questionner. Elle doit arrêter de s'accrocher à la formation des enseignants au TIS, technologie de l'information, de la communication et de je ne sais plus quoi, via la plateforme Magistère, avec un arrobase à la place du A. Je n'invente rien, on en est là. Ça, c'est la vision toute droite sortie des années 80 et du grand plan ordinateur personnel.
Les TIC dans toute leur splendeur.
Non, mais c'est très beau. Aujourd'hui, la recherche, la philosophie notamment, montre que nous sommes plus dans une simple évolution technologique, mais dans une révolution anthropologique. Ça, c'est Michel Lussault qui le dit, c'est le directeur de l'Institut français de l'éducation, quand même. Alors, il existe des pistes de cette transformation pédagogique. Parmi toutes ces initiatives, celle qui me semble pour moi la plus intéressante, quelque chose que vous connaissez sûrement, ça s'appelle la classe inversée. La classe inversée,
moi,
ça part du principe qu'en effet, le prof n'est plus le garant du savoir, et donc qu'il doit penser moins d'énergie dans le cours magistral et plus dans l'accompagnement des exercices auprès des élèves. On dit que c'est inversé parce que traditionnellement, on a le cours en classe et les exercices à la maison. La classe inversée, à la maison, ce sont des capsules sous forme de vidéos, de podcasts, voire même du contenu interactif, grâce auquel les élèves vont se familiariser avec un sujet ou un thème. Donc voilà, ça leur prend 30 à 1 heure à la maison. Puis des temps en classe où là, ils vont faire les exercices avec le prof.
Ah d'accord, donc et les cours à la maison, les exercices en classe.
C'est ça, et les profs qui expérimentent ça disent, attention, qu'ils passent du face-à-face au côte-à-côte. Esprit start-up ou pas, franchement.
École française de la punchline.
Avec la classe inversée, les temps en classe sont plus personnalisés en fonction des niveaux, ils sont plus collaboratifs aussi, voire plus autonomes. Et même l'espace de la classe change. La classe, elle se structure en ateliers et en îlots plutôt qu'en randonnion. Et ouais.
Ah oui, c'est fou ça.
Ils font des workshops. Et ouais, esprit start-up de ouf. Alors c'est intéressant et ça rentre dans un grand courant qui s'appelle la pédagogie active. Voilà, comme si on demandait aux profs d'être actifs, c'est intéressant. Et selon moi, la pédagogie active, c'est quelque chose qui est plus en phase avec nos sociétés numériques que filer des tablettes aux gamins. Et le constat, il fait un peu bader hein, sur École Numérique. J'y suis allé et j'ai tapé classe inversée dans le moteur de recherche et j'ai trouvé une occurrence. Et j'ai tapé pédagogie active et j'ai trouvé zéro occurrence.
Ah ouais, donc on est encore loin.
Ouais, et pourtant il y a des initiatives. Par où on commence? Moi j'ai envie de demander à l'éducation nationale d'oser prendre des risques. Et puisqu'il existe des professeurs prêts à prendre des initiatives, parce qu'il y a des gens qui les font les classes inversées, alors il faut les encourager, leur apporter des ressources et du financement. L'argent, c'est un gros problème dans l'éducation nationale. Sur la base de ces volontaires financés, on crée des expérimentations un petit peu partout en France, dans différentes régions, dans les villes comme à la campagne, dans différentes zones d'éducation, dans des ZEB comme chez les Bourges. Et puis on observe. Parce que voyez-vous, le premier obstacle à la mise en place de la classe inversée, c'est le manque d'études pour mesurer son efficacité. Bah forcément, si tu mets pas les trucs en place, comment tu veux mesurer que ça fonctionne? Eh ben, on va créer des retours d'expérience. Il existe déjà un réseau de profs qui fait des retours d'expérience en vidéo tous les mois pour alimenter vraiment ce retour d'expérience des classes inversées. Il faut aussi aller chercher des compétences ailleurs. Au début de la chronique, je parlais du design thinking en rigolant. Mais en fait, je suis très sérieux. Les méthodologies du design, de la résolution de problèmes et même cette fameuse culture start-up du prototypage rapide, de mettre l'utilisateur au centre, etc., etc. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de cette pédagogie active. Je suis pas professeur des écoles, mais je donne des cours moi aussi et j'ai toujours conçu mes cours en partant du postulat qu'il fallait que ce soit plus intéressant que Facebook, plus intéressant que les ordinateurs qui sont devant les élèves. Je leur demande pas de les fermer, je leur dis juste que je vais tenter d'être plus intéressant que ça.
Tu vas hacker leur attention.
Voilà, ce qui m'a amené naturellement à une pédagogie très active, à beaucoup faire participer les élèves plutôt que faire un cours magistral. Merde, à la fin, c'est pas être un cancre que se dire qu'on se fait chier en amphi. Voilà. Le mot est lancé.
Oh là là,
sur cette base, on va améliorer, on va partager les bonnes pratiques, on va faire des itérations, voilà, comme en start-up, et puis on va passer d'une bêta privée à une public release. Demain, les profs les moins enclins à changer leurs habitudes pourront être formés et accompagnés, parce qu'effectivement, il y a des profs qui n'aiment pas le changement aussi. Géraldine, 60 ans, 30 ans d'éducation nationale, elle a pas envie de faire une classe inversée, ça l'intéresse pas. Il existe des programmes où on peut visiter en tant qu'observateur des classes inversées, et ça, il faut l'encourager aussi. Et si ces expérimentations, elles conduisent à penser qu'il faut faire disparaître la compétition, les notes, ou même les inspecteurs de l'éducation nationale, alors, écoutez, monsieur le ministre de l'éducation, monsieur le futur ministre de l'éducation, il faudra le faire. Je pense qu'un prof est heureux quand ses élèves le sont et qu'ils réussissent. Je pense sincèrement que c'est ce genre d'expérimentation qu'on peut former de futurs citoyens à la société numérique et revaloriser le métier d'enseignant. Attention, point Scandinavie. En Finlande, puisqu'on cite souvent son modèle éducatif en exemple, les profs sont socialement valorisés, comme des médecins ou des avocats. Alors, ça vient du fait aussi qu'on les recrute à Bac plus 5, ok? Mais c'est un métier noble et respectueux chez eux. Je pense que les enseignants français ont perdu ce statut, car il y a un décalage trop fort entre le modèle éducatif actuel et notre société numérique. Prochain ministre de l'éducation, si tu m'écoutes, désolé Najat, débloque-moi ces budgets et encourage l'innovation, repensons la pédagogie avant de distribuer des tablettes.
Oh là là! C'était une chronique pure Sylvain Palais.
Sylvain Palais 2017.
Voilà.
Tout à fait.
Il y a eu un instant Palais 2016, enfin Palais 2022 maintenant. Hein. Il y a eu un instant imitation, il y a eu un instant citation d'auteurs de sociologie semi-obscur.
J'ai fait une bonne chronique à l'ancienne. voilà. Une bonne chronique à l'ancienne.
Il y a eu un instant, je bosserai bien chez Google quand même. Enfin, il y a eu du pur Palais. Mais en tout cas, donc, Sylvain nous ferait un constat pas jojo hein, de l'éducation actuelle alors qu'on vit dans le numérique et que l'éducation comme tu dis Sylvain, si je résume bien, elle a l'air de s'intéresser au numérique mais en fait elle s'y intéresse pas de la bonne manière d'une certaine manière.
Exactement.
Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que Sylvain vous a dit? Est-ce que vous avez découvert des choses déjà? Moi j'ai découvert pas mal de choses.
Oui mais en fait c'est surtout que ça fait belle lurette que l'éducation nationale essaie de sensibiliser les élèves à l'informatique, au numérique, à tous ces trucs là quoi. Enfin
normalement est-ce que sensibiliser les élèves au numérique c'est ça l'éducation numérique dont on parle
ou
est-ce que
c'est juste un compte Facebook?
Alors non mais ce que je veux dire c'est que depuis super longtemps finalement elle regarde de ce côté-là. Après je dis pas qu'elle sait s'en servir du numérique ou qu'elle sait l'apprivoiser mais en tout cas Elle ne l'a pas découvert en 2015 ou en 2017.
Mais,
tu vois.
Mais le problème, c'est qu'en 2015, elle voit encore le numérique à travers l'objet, à travers l'outil.
La question,
et donc,
c'est ce que,
dans les années 90, ils ont filé des ordinateurs à tout le monde sans former les profs. Et aujourd'hui, ils filent des tablettes à tous les élèves sans que, avec des contenus spécialisés, mais sans que derrière, il y ait une vraie profonde mutation de comment on apprend.
Mais à côté de ça, t'as quand même, moi, ça m'a assez surpris de voir que, justement, les élèves de maintenant, les collégiens de maintenant, leurs profs discutent avec eux via email, leur envoient les bulletins d'absence ou de présence sont transmis aux parents électroniquement.
Il n'y a plus qu'un des correspondances bleues là avec les petits tickets.
Bah, je pense qu'il est encore là, mais en tout cas il y a beaucoup plus de. Moi j'ai été surpris de voir qu'il y avait énormément de communication qui se passait en dehors de la classe entre le prof et ses élèves.
D'accord. Mais là tu parles quand même d'une matière qui est enseignée, tu parles de moyens de communication, mais là on parlait carrément de la manière de transmission,
changer l'apprentissage,
changer l'apprentissage de manière plus profonde encore.
Je suis complètement d'accord, effectivement, mais encore une fois, le numérique pour moi c'est un moyen d'y arriver. C'est-à-dire que les classes inversées, finalement, t'as pas besoin du numérique pour mettre ce truc-là en place.
Ça facilite quand même pas mal la chose, le fait de faire ces choses seules chez soi. Le cours, enfin le savoir dont on a parlé dans la chronique de Mélissa, savoir qui est maintenant accessible à tous de manière autonome. Justement, ça.
Oui, mais normalement, t'as quand même des, le savoir à l'école, il s'appuie sur des ouvrages qu'on te recommande. Donc je pense que tout ce que tu peux trouver après sur Wikipédia, etc., ça sera c'est du contenu périphérique, mais c'est à la base, on va te dire, t'as un bouquin qui s'appelle Histoire-Géographie, bosse le cours chez toi avec ce bouquin-là, va sur Wikipédia si t'as envie, et ensuite on fait les exercices en classe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce truc-là, on aurait pu le faire en 86, tu vois.
Ah, oui. Complètement. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose de très nouveau, hein. Enfin. La classe inversée, ça existe depuis fin 90, début 2000. Ça vient de Grande-Bretagne, je crois, à la base, ou Québec. Ouais. Mais il y a d'autres méthodes qui existent depuis très longtemps. Il y a tout un courant qui s'appelle l'école nouvelle qui est née après la guerre, etc. Mais je sais pas pourquoi, en France, on n'a jamais voulu changer le truc. Et ça fait 100 ans qu'on enseigne de la même manière, en fait.
Mélissa, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette chronique et de ces positions fortes de Sylvain à Montpalais?
Mais je suis très d'accord, parce que au-delà de l'objet même numérique ou de l'outil numérique, dit très bien Sylvain, c'est qu'en fait, la culture numérique, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici, c'est l'espèce de curiosité qu'on a.
C'est vrai.
Qu'on t'apprend pas à l'école, parce qu'on te fait bachoter, on te fait apprendre. En fait, on t'apprend à apprendre. Mais aujourd'hui, accumuler le savoir, on le disait dans la chronique précédente, ça sert à rien vu que le savoir, il est là. Quand il parlait du design thinking, qui est le truc américain où il se touche un peu, mais ce que ça,
c'est le point palais.
C'est apprendre, réapprendre à apprendre. Et c'est vrai qu'on t'apprend pas à la curiosité. Et moi, en école de journaliste, c'est pareil. On t'apprend à écrire un article, machin. On t'apprend pas à sauver ta boîte quand l'économie de l'attention a fait qu'on fait du clickbait, tu vois. Et à trouver un modèle économique.
Alors là, c'est un
point fibrotique
de la part de Mélissa qui est genre, je veux pas eu mon boulot, en fait. On parle d'éducation, mais je veux parler de
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que l'école ne t'apprend pas à inventer des choses et t'apprend à être un robot, ce que peut faire un robot aujourd'hui. Ce que je disais, il y a un article du Guardian qui est paru où ils nous disent vraiment, on nous apprend aujourd'hui à être des robots. Ouais. Ce que feront des robots, et ça sert à rien ce qu'on apprend à bachoter, ça sert à rien.
Ça rend de moins en moins de valeur avec le temps. Mais du coup, ça me fait penser à l'école 42, donc une école assez connue parce que c'est une école donc de développeurs, notamment cofondée par Xavier Niel, et qui apparemment donc met en valeur ce système de débrouillardise et de curiosité dont tu parles, toi, Mélissa, puisqu'ils disent c'est pas forcément les examens, mais la première grosse épreuve qui s'appelle la piscine, c'est genre on te lâche sur un marathon de plusieurs semaines où tu dois te démerder, en fait. Et c'est là-dessus qu'ils sélectionnent les élèves et pas sur des dossiers.
C'est ça, parce que là, t'es obligé d'être malin, quoi. Et franchement, c'est aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que quand t'as la bonne idée de start-up et que t'arrives ensuite à la mener jusqu'à la création de l'entreprise, tout va bien. Ouais. Mais en fait, on nous apprend pas ça à l'école, clairement pas.
Donc pour toi, la numérisation de l'éducation, ce serait quand même de reprendre des valeurs qu'on a découvertes avec le tout
Internet,
numérique.
Quoi. Okay. La curiosité qu'on a dans notre navigation au quotidien.
Sylvain?
Il y a, je sais plus si c'est Bernard Stiegler ou pas qui dit ça, mais beaucoup de gens le disent. En fait, aujourd'hui.
On va dire Bourdieu, comme ça on aura cité un mec.
on peut pas, il est mort. Mais aujourd'hui, à l'école, les gamins, ils sont en train d'apprendre, ils sont en train d'être formés à des métiers qui n'existeront pas, en fait, quand ils seront adultes en âge d'appliquer. Enfin, ils vont faire des métiers plus tard qui n'existent pas aujourd'hui. Et en fait, il faut les former à pouvoir se débrouiller, à être curieux et à apprendre plutôt que effectivement, leur donner des savoirs formatés.
Ça, normalement, c'est ce qu'on t'apprend en cycle supérieur, quoi.
Normalement. Mais en cycle supérieur, tu fais du djembé dans la pelouse. ça, c'est un autre problème.
Après, c'est moi qui empile les clichés.
C'est ça le problème. Non, j'en ai pas vécu. Enfin, pour le mec qui entendait le djembé.
C'était du diabolo, moi.
Fibre.
Très belle chronique de Sylvain. Ça m'a même ému.
Ça t'a ému?
Ouais,
combien sur 6?
Près de 5 parce que, effectivement, il y a un gros problème dans l'éducation.
Ouais.
Et c'est un peu désespérant. Et une des grandes tristesses que j'ai vécues quand Wikipédia est arrivé. Wikipédia, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Hein. Ouais.
C'est que je me suis dit, je l'ai pas eu à 12 ans, tu vois. Je l'ai eu que à 30 ans. Et ça, c'est, enfin, les jeunes ne savent pas la. Déjà, ils ont Internet, donc ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Mais en plus, ils ont Wikipédia. Ils ont Wikipédia. C'est.
Ouais. Moi, je suis pas sûr que ça soit réellement un avantage, en fait.
Je pense que c'est différent. Copier coller, ça va être.
Enfin, c'est différent.
Je pense même que c'est le contraire, parce que.
Oui, mais est-ce que cette histoire de copier coller, c'est pas un avantage? C'est justement notre époque un peu de friction, de découverte d'Internet qui crée ça. Mais comme dit Sylvain, en fait, la connaissance n'aura pas de valeur en elle-même. C'est ce que t'en fais derrière qui.
Ouais,
qui aura la valeur.
Justement, c'est pas ça que t'apprends aux élèves, en fait.
Pour reformuler.
On vit dans cette friction, en fait.
Mais non, mais c'est déjà pas ça qu'on t'apprenait à l'époque. Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, avant, bah, t'avais pas Wikipédia, donc t'allais à la bibliothèque, et après, tu recopiais des textes mot pour mot et des paragraphes entiers, et puis tu les mixais, et puis tu les recrachais, quoi, tu vois. Il y avait pas d'interprétation, il y avait pas de recherche personnelle, il y avait pas tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on t'apprenait le truc.
Pour reformuler ce que disait Mélissa, aujourd'hui, on embauche à des bons postes des gens qui ont eu de grands diplômes, donc qui ont eu de bonnes notes. Et en fait, la bonne note, aujourd'hui, dans le système éducatif français, elle démontre que vous êtes levé tous les matins. Vous êtes arrivé tous les jours à l'école à heure fixe et vous avez suivi les consignes. Et effectivement, vous êtes un excellent salarié, donc effectivement, vous êtes des robots. Et malheureusement, et ce que ne tolère pas, je comprends, hein, parce que les mentalités doivent changer, malheureusement, l'individu performant du futur, c'est un peu une sorte d'anarchiste qui dit « moi, ma vision, c'est ça ». Et moi, par exemple personnel de ma jeunesse, on m'a demandé de faire des expériences en biologie en cinquième. Et moi, j'ai dit, je voudrais faire une expérience si la musique influence la poussée des plantes.
Ouais.
Voilà. Okay. Et on m'a dit, vous êtes fou, c'est pas de la science, je refuse que vous fassiez cette expérience. Et moi, j'en ai toujours voulu à cette personne-là. Et aujourd'hui, quand j'ai la haine.
Dis le nom.
Quand j'ai la haine, je pense à elle et c'est une prof de bio. Et je dis, voilà, je fais différemment, je sais que ça va pas marcher, je tente quand même.
Et ça m'excite un peu quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement.
Et 6 sur 6, putain merde.
C'est, tout le monde se touche la nouille en disant, faut être entrepreneur, faut créer des entreprises, tout ça. Alors, en plus que c'est très compliqué, on n'a pas la mentalité pour ça. Je veux dire, il faut vraiment avoir une envie de réussir formidable ou être un total loser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs qui créent des entreprises en France, ce sont des analphabètes parce qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune chance d'être embauchés.
Mais pas à Paris.
Ils n'ont aucune chance d'être embauchés. La plupart des gens, les gens qui créent des entreprises sont des gens qui n'ont aucune chance d'être embauchés. Sinon, ils préfèrent se toucher avec un salaire.
C'est faux, attends. Plein de salariés qui quittent leur entreprise pour en créer une autre.
C'est marrant parce que le segment de fibre a fait une courbe sinusoïdale comme son humeur, c'est que c'est parti vachement bien. Les entrepreneurs sont des analphabètes.
Non, les entrepreneurs sont des mecs hors système. Hors système aujourd'hui, alors que.
Considérés comme hors
système. Je pense qu'il y a certains pays où il y a beaucoup d'entreprises où les gens sont dans le système. Dada, c'était pas un entrepreneur, donc on t'écoute pas.
Quoi?
Qu'est-ce qu'il faut faire?
On a tous une boîte.
Est-ce qu'il faut expliquer la vérité à fibre ou faut l'ignorer comme
ça? Non, mais moi je laisse dans sa matrice.
Expliquez-moi la vérité.
On te donnera les statistiques des gens qui sont des grandes écoles de commerce qui créent des entreprises. Tu verras, c'est étonnant. Mais je vois ce que tu voulais dire, Fibre, au sens où on ne stimule pas ta créativité, ta prise de risque, en tout cas, dans l'éducation traditionnelle française. Ça,
on
c'est
valide
sûr.
Ta ponctualité et ta résistance.
Et là-dessus, c'est vrai que tu rejoins Mélissa sur le côté. On t'apprend plutôt une forme de discipline de l'apprentissage et on met en valeur des choses comme la logique ou la mémoire. Mais c'est peut-être pas ça qui est pertinent dans l'époque qu'on vit. Parce que la logique et la mémoire sont des choses qui sont en train d'être déportées, en fait.
Encore une fois, je pense que numérique, c'est même pas, ça rentre même pas dans l'équation, quoi.
T'as raison, Daz. T'as raison parce qu'effectivement, la chronique de Sylvain, à un moment, s'élargit comme un vrai programme électoral, en fait, elle s'élargit sur un pays merveilleux. Mais si on revient à ce que le numérique peut vraiment de manière palpable apporter à l'éducation.
Alors moi, je le vois direct, c'est la numérisation de tous les bouquins pour que le cartable il pèse 500 grammes. Déjà d'accord. De base, c'est
500 grammes et 505 grammes si t'as la 3G dans ta tablette.
Voilà, c'est ça. Non mais tu m'as compris. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. Moi, les cartables à 13 kilos, je m'en rappelle, on les avait, les bouquins que t'étais obligé de trimballer, etc.
Le tanks qui te lacère les épaules.
C'est, voilà, pour moi, l'apport du numérique, déjà, le premier truc, ça serait ça. C'est-à-dire que t'as des PDF, t'as plus de bouquins. Donc t'es tranquille pour justement gérer tes fournitures.
Encore plus ambitieux. C'est-à-dire de dire qu'en fait c'est même pas des bouquins que tu numérises, mais c'est quelque chose quand même de nouveau. C'est pas des bouquins qui seraient une connaissance.
Après, je pense qu'il y a déjà 1 milliard de moyens d'intéresser les gens en fait avec des méthodes traditionnelles, sans pour autant se dire que le numérique c'est la voie. En fait, c'est l'échappatoire rêvé.
Tout le monde pensait que le numérique, justement, allait apporter, comme tu disais, Sylvain, des éducations alternatives. Donc, on parle de choses comme l'école inversée, les préceptes de Montessori, des choses comme ça, qui expliquaient qu'en fait, la tablette va pas apporter la numérisation du livre, mais surtout quelque chose qui réagit en temps réel, qui s'adapte aux points forts, aux points faibles de l'élève, qui l'accompagne, qui fait la gamification, quelque chose de vivant, en fait.
Ouais, mais
C'est jamais vraiment apparu.
Il y a des choses qui existent comme ça. L'expérimentation de cette chère Catherine là, c'est justement des élèves qui sont sur des tablettes hyper solides avec des contenus interactifs, etc., qui peuvent faire des recherches en temps réel, qui ont une sorte de logiciel brouillon où ils peuvent coller des images, dessiner, etc. Et à n'importe quel moment, la prof, elle peut décider, quand elle passe derrière et qu'elle regarde sur un écran, ah ça c'est intéressant, je vais le projeter. Et donc elle peut projeter à n'importe quel moment le travail d'un élève en train de se faire, etc.
De quel niveau on parle en fait? C'est ça la question.
Là c'était
c'est un collège.
C'est un collège.
C'est chouette comme vision, non?
Ça c'est chouette, mais pour moi toutes ces initiatives, aussi intéressantes qu'elles soient, sont des patchs, sont des rustines en fait, où on se dit ah bah les enfants cet après-midi on fait une heure d'internet, tu vois, une heure de numérique. C'est l'atelier tablette, quoi.
Ouais.
Alors que pour moi, ça doit être un moment, un support qui est là tout au long, qui ne doit pas remplacer les livres, qui ne doit pas remplacer une équerre, une craie, un machin, mais qui vient comme nouvel outil. C'est plus comme ça que je le vois.
Qui change le rapport dont tu parles.
Voilà. Et ça existe dans l'école inversée. La prof crée des contenus interactifs à visionner pour les élèves. Donc souvent, c'est sous forme de vidéos, etc. Où les profs, ils font ça avec les moyens du bord. C'est navrant de voir ça sur les blogs. Des mecs qui partagent, ils disent alors je vais vous apprendre à utiliser PowerPoint, Screen-O-Matic pour enregistrer votre écran.
Encore une fois, l'éducation numérique, ce n'est pas apprendre du numérique en fait. Là, on se trompe, c'est un faux chemin.
Ouais.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir que si demain vous voulez apprendre efficacement une langue étrangère, vous allez télécharger des podcasts adaptés ou suivre des méthodes informatiques performantes qui vous permettront d'atteindre ce but, qui sont radicalement différentes des méthodes qu'on a en cours.
Ah, c'est intéressant. Tu nous donneras des liens sur le forum, parce que ça, c'est assez intéressant.
Ouais, c'est vraiment étrange qu'on n'utilise pas ces méthodes-là pour les jeunes, parce que les jeunes, ils parleraient bien. Et encore, je me plains pas trop, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils parlent bien anglais. Voilà, mais c'est peut-être pas à cause
de ça.
C'est pas grâce à l'éducation.
Ils regardent des séries et que, tu vois, on est bercé à la culture américaine.
Bon, très bien. Bon, en tout cas, c'est vaste programme. Je pense que pas mal d'auditeurs auront des choses à dire là-dessus. En tout cas, on ouvrirait une section spécifique du forum pour qu'on parle du vaste sujet qui est l'éducation à l'ère du numérique à plusieurs dimensions, d'un point de vue matériel, d'un point de vue logiciel, mais aussi d'un point de vue approche de la pédagogie. En tout cas, vaste programme pour Monsieur Palais 2022.
Tout à fait.
Allez, on attaque tout de suite la toute dernière FAQ.
FAQ.
Devinez de qui vient la dernière FAQ. Elle vient du vrai Curtis.
Ah, oh,
notre star.
Non, le met pas trop en valeur, attention.
Donald Trump.
Je vous rappelle qu'on sait pas du tout qui est cette personne sur le forum, puisque son compte est verrouillé.
Donc le vrai Curtis qui est Suspicious Man sur le forum.
C'est ça. Bon, Adamo aussi.
Qui est Adamo, qui est un des attention hackers du forum. En tout cas, pose une question intéressante. Est-ce qu'il nous demande si Internet va influencer la prononciation de la langue française? Il nous dit que la télé l'avait fait d'une certaine manière en lissant les accents et que la manière dont on parlait à la télé dans les émissions est devenue un peu la manière scolaire ou en tout cas normalisée de parler français. Est-ce que sur Internet, du coup, on va avoir une langue unifiée ou justement on va avoir des langues, des manières de parler très très différentes? Fibre a levé le doigt comme le premier de la classe qu'il est toujours.
Avez-vous remarqué que je dis iPhone?
Oui, mais ça c'est pour nous faire chier.
Non, pas du tout.
Quelle est la raison?
C'est vraiment grave.
Au fin fond de mon cerveau, je peux pas dire autrement que iPhone. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce mot écrit, je l'ai vu plein de fois, et dans ma tête, je lisais iPhone. Et effectivement, bien après, j'ai rencontré des gens qui disaient iPhone correctement. Et je pense que l'Internet étant majoritairement une culture écrite, non sonore, eh bien, elle risque d'influencer une sorte de diversité. Chacun aura son petit territoire de prononciation.
D'accord. Ok, donc Fibre, il est pour que des gens disent Imgur et d'autres disent Imager, par exemple.
GIF.
Sylvain.
Je pense pas que ça va unifier, je pense au contraire que sur Internet, on a plein de petits territoires, hein, je pense un petit peu comme toi, Fibre, et du coup, ça crée des patois aussi. Ça crée des langages vernaculaires, et sur 4chan, si tu débarques et que tu connais pas le truc, bah, tu vas pas comprendre ce qu'ils disent. Un petit nouveau sur Twitter, il va rien comprendre non plus.
Ouais.
Donc, on a quand même des petits langages sur les plateformes, sur les forums, sur les trucs. Même ici, à 404, ou même quelqu'un qui débarque sur le forum, il va tomber sur des phrases ou des expressions qu'il va pas comprendre.
Mais parce que là, on parle de prononciation, il va les prononcer à sa manière, comme Fibre le fait.
Ouais, mais moi, c'est pas sur la prononciation, alors c'est plus sur le patois, je pense.
D'accord, ok. Voilà. Parce que là, ça paraît aussi de prononciation. Daz, est-ce que tu penses que, en un moment, on va tous parler pareil parce qu'on va tous regarder les mêmes contenus? Est-ce que, justement, tu suis l'idée de Fibre de petits îlots de prononciation?
Moi, je rejoins un peu Fibre et Sylvain là-dessus. C'est-à-dire que la prononciation, je pense que chacun aura la sienne. Ouais. En revanche, il y a quand même des termes qui deviennent génériques en fait et qu'on va tous adopter, enfin qu'on a déjà tous plus ou moins adopté.
Oui, mais regarde par exemple notre émission spéciale Stalking, on prononçait le L, on parle de TED Talk, il y a des gens, ça leur hérissait les cheveux sur la tête. On savait bien qu'il faut dire Talking ou Stalking, mais parce que pour le podcast on prononce par exemple le L pour que ce soit plus compréhensible, et ça peut dire que des gens vont peut-être découvrir le mot Stalking et ils le prononceront toujours Stalking, non? Attendez, Daz n'a rien à répondre, c'est un moment golden, on va passer à Mélissa tout de suite. Mélissa.
Non mais oui, on est dans une zone grise de la prononciation vu qu'il y a moult termes qui sont créés.
Alors ça c'est vrai, c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de termes nouveaux qui arrivent
dans le
souvent.
Débat sur la chronique de Daz par exemple, il y a beaucoup de moments où je me sentais très seule.
Oui, ça c'est parce que c'est Daz.
C'est comme si vous parliez une autre langue.
Daz il a une forme de nouveau langue, c'est-à-dire qu'en temps réel en fait il développe son lexique.
Donc normal. En termes de prononciation forcément ça crée multiples, enfin, comme disait très bien Fibre, multiples façons de faire.
Mais je rejoins vraiment Fibre, en fait, pour moi, Internet, c'est principalement de l'écrit, donc je vois pas comment tu peux influencer la diction d'un truc.
Ouais, il y a quand même beaucoup de vidéos là qui.
Non, mais du coup, c'est marrant parce que tu te retrouves à avoir des surprises.
Oui.
Et je sais pas, Fibretti va faire.
Je l'aurais pas dit comme ça.
Fibretti va faire une chronique, il va dire iPhone, et on va tous faire Ah, tu dis iPhone, mais c'est ouf, tu vois. Parce que effectivement, c'est un mot qu'on avait jamais prononcé, on l'a toujours écrit et lu.
D'ailleurs, on l'a déjà dit ça en 2013.
Comme quoi c'est
parce qu'il parlait d'iPad et on lui a dit non ça se dit iPad.
Oh, tu dis iPad aussi.
Bah,
mais
sûr.
Il a dit cocktail tout à l'heure.
Oui, c'est vrai qu'il a dit cocktail.
Ça se dit comment?
Cocktail.
Cocktail.
Très calmement Fibre, comment tu dis puzzle?
Ah non, je dis puzzle, pas okay. Puzzle.
Puzzle. Okay.
Bon, ça va.
Et vous dites geôlier ou geôlier?
Moi, je dis un pulse.
Geôlier.
Geôlier. Parce que là, on tombe sur un des topics les plus actifs du forum qui est un topic spécial sur je prononce mal les mots sur le forum, qui évidemment est parti en vrille. Mais en tout cas, on vous invite, on vous linkera, on vous invitera à aller le voir. Voilà. C'est la fin de cette dernière FAQ sur la prononciation ou la pronunciation. Je sais pas. On verra.
Prononciation.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'est la fin de ce numéro de février de Studio 404. Nous avons donc parlé de l'éducation, mais nous avons aussi parlé des jeux vidéo en local. Nous avons parlé de donner un sens à nos données de notre quantified self. Et nous avons parlé, Fibre, de l'orgasme. Non, je déconne.
Du hacking de l'attention.
Ah, je déconne.
Fake news.
Mais de l'orgasme aussi quand même. Allez, plus sérieusement, c'était un vrai plaisir. Est-ce que vous avez un petit truc à dire avant qu'on se quitte chacun ou pas?
Venez à la fête jeudi.
Hâte de vous voir à la soirée de jeudi. Ouais.
Donc jeudi 23 février 2017, on vous attend au Piole dans le 19e vers Belleville. Daz, un petit mot?
Non, même pas. Jouer à Elite peut-être.
Jouer à Elite.
C'est pour moi ça.
Faites comme nous.
On se retrouvera bientôt sur Elite. En tout cas, donc nous on vous retrouve jeudi pour si vous êtes parisien comme Fibre au Piole pour la soirée de qualité avec aussi des équipes de trajectoire,
des canapés 3
cool,
places,
de C'est cool, c'est quoi, du log. Je sais pas s'il sera là le mec du log.
Le mec du log. Bon, on voit pas trop.
On verra. Il perd ses podcasts. Et c'était un plaisir en tout cas de faire cette émission avec vous, cher chroniqueur, avec toi Ghislain. On espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter. On se retrouve très vite. Ciao.
Ciao. Ciao.
Bye bye.
Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.